Il est 18h sur Europe 1.
On a eu trop peur. On ressent qu'on n'est pas en sécurité ici. Même les policiers, ils ne peuvent pas intervenir pour nous protéger. On a peur pour nos enfants.
Des habitants effrayés et excédés après l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne la nuit dernière par une quarantaine de personnes à coups de mortier d'artifice.
Dès le début de ce journal, nous serons en direct de Roland-Garros où Raphaël Nadal vient de l'emporter en écrasant littéralement le numéro 1 mondial Novak Djokovic.
Une deuxième vague, 40% des infirmières qui veulent quitter leur métier et des médecins très inquiets. Réaction d'Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur, lanceur d'alerte sur Facebook. Plus de 400 passagers bloqués sur un ferry qui vient d'accoster à 7 dans l'Hérault. À bord, 5 cas positifs. Dans ce journal reportage en Nouvelle-Calédonie, une semaine après le référendum sur l'indépendance où le non l'a encore emporté. Et puis la météo, une nouvelle perturbation océanique arrive par l'ouest. Demain, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous partons donc tout de suite pour Roland-Garros, où la finale homme vient de se terminer entre les deux rois du tennis mondial, Novak Djokovic et Raphaël Nadal.
Nadal qui vient de l'emporter étonnamment facilement face au numéro 1 mondial. Nous sommes en direct du cours Philippe Châtrier avec vous, Corinne Boulou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Finale très douloureuse pour Novak Djokovic.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Raphaël Nadal continue, lui, d'écrire l'histoire à Roland-Garros. L'Espagnol a livré une partition sans accroc, frisant la perfection pour remporter son 13e titre à Roland-Garros sans perdre un set pour la 4e fois à Paris. Il a surclassé le numéro 1 mondial 6-0, 6-2, 7-5 en un peu plus de 2h30 de jeu à Novak Djokovic qui a tenté de se révolter dans la 3e manche, mais c'était trop tard. Raphaël Nadal reste plus que jamais le maître des lieux. Et il égale ce soir le record de Roger Federer de 20 titres en grand chelem, incroyable. Et dans quelques instants, il soulèvera pour la 3e fois la Coupe des Mousquetaires.
Merci Corinne Boulou en direct de Roland-Garros. Notez que Guy Forget, le directeur du tournoi de Roland-Garros, sera l'invité de Mathieu Béliard demain matin à 7h40 sur Europe 1.
Une quarantaine de personnes ont attaqué le commissariat de Champigny-sur-Marne en banlieue parisienne la nuit dernière à coups de feux d'artifice directement dirigés contre la façade du bâtiment.
Ils ont essayé de forcer l'entrée du commissariat au moment où deux policiers faisaient une pause cigarette devant la porte d'entrée aux alentours de minuit. Pas de blessés, une personne vient d'être placée en garde à vue, mais des voitures ainsi que la porte d'entrée très vitrées ont été dégradées. Pierre Herbulot, vous étiez sur place cet après-midi. Tout le quartier a été secoué cette nuit par l'attaque.
Oui, puisqu'elle a été extrêmement bruyante et soudaine. En plein cœur de la nuit, les puissantes détonations des feux d'artifice tirés par des mortiers ont résonné contre les façades des grandes tours. Carmen habite dans l'une d'elles, juste en face du commissariat.
On a eu trop peur. Franchement, on ressent qu'on n'est pas en sécurité ici. Même les policiers, ils ne peuvent pas intervenir pour nous protéger. Non, on circule mal partout. C'est pas la première fois qu'on voit ces scènes-là. Il y a eu la même chose, ça fait presque un mois. On a peur pour nos enfants.
Devant les vitres cassées, Youssouf vient constater en vrai ce qu'il a vu à la télévision. Si le décor n'a finalement rien d'une scène de guerre, cet ancien du quartier n'en est pas moins choqué par le symbole visé.
Vraiment, c'est impressionnant. C'est la police, quand même, ils nous protègent. Ils protègent la population, ils protègent les biens des citoyens. C'est très grave.
Un commissariat régulièrement ciblé par les jeunes, mais pas pour du trafic, promet l'un d'entre eux. Cette colère fait suite à une interpellation qui a mal tourné en début de semaine.
Là, ils ont cartonné un mec, un petit jeune du quartier. Ils l'ont foncé dedans, ils l'ont cassé le fémur. Ils l'ont cassé le fémur. Et après, eux, quand ils se font arroser 2-3 mortiers, ils font comme s'il y avait un truc de fou.
La présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est rendue sur place un peu plus tôt cet après-midi pour apporter son soutien, demander des sanctions et réclamer plus de policiers sur le terrain.
Merci Pierre Herbulot.
Alors, attaque en représailles ou attaque liée à la lutte contre le trafic de drogue menée par la police, on posera la question au maire de Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne, qui sera notre invité juste après ce journal. À 18h04 sur Europe 1, alors qu'on entre de plein fouet dans la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, un chiffre révèle l'ampleur du ras-le-bol, Virginie Salmen, chez les infirmiers et les infirmières.
Oui, 40% d'entre eux veulent changer de métier depuis le début de la crise sanitaire, résultat de la consultation de l'Ordre national des infirmiers. Les médecins, eux aussi, sont à bout. C'est le message d'Arnaud Chiche, fer de lance du malaise des soignants sur Facebook via le collectif Santé en danger qu'il a créé cet été. Il est médecin anesthésiste réanimateur à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais.
Les soignants ne sont pas des pleurnichards. Ils vont essayer de faire face. Mais là, on tire trop sur la corde. Mmh. Il va y avoir des drames. On n'a rien fait pour les effectifs. On a été nuls. pour le matériel. Absolument nul. Je reçois encore aujourd'hui des messages d'infirmières qui travaillent dans des blocs opératoires et qui me disent « S'il vous plaît, parlez des gants. Il manque en France aujourd'hui, en octobre 2020, des gants stériles pour faire tourner les blocs opératoires. » Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de pilotage central. Il n'y a aucune coordination des territoires. Il n'y a pas de gestion territoriale du Covid. Les hôpitaux, c'est un peu chacun pour soi. Et ça, c'est très important parce que ça, on ne le dit pas dans les médias.
Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur dans les Hauts-de-France, invité d'Europe Midi. Michel Fourniret et son épouse Monique ont échangé des SMS en continu la nuit de la disparition d'Estelle Mouzin, information Europe 1 de Chloé Triomphe, après l'analyse des écoutes téléphoniques du tueur en série que le père d'Estelle, Éric Mouzin, réclamait depuis 15 ans. Plusieurs transports judiciaires vont avoir lieu dans les prochaines semaines dans cette enquête à Guermantes, en Seine-et-Marne, où la petite fille a été enlevée, et dans les Ardennes, où résidait le couple Fourniret.
D'ignobles tags nazis en plein Paris, selon les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
Une vingtaine de croix gammées taguées à la peinture rouge sur les colonnes des arcades de la rue de Rivoli. Des photos circulent depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Un suspect est en garde à vue, un homme d'une trentaine d'années né en Géorgie, interpellé par des agents de sécurité de la ville de Paris. Xavier Bertrand n'est pas le mieux placé à droite pour 2022, selon Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, invité aujourd'hui du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos.
Xavier Bertrand a fait le choix d'abandonner notre famille politique quand elle était dans la difficulté. Notre pays, qui connaît aujourd'hui de graves difficultés, eh bien pour moi, cela ne fait pas de lui le mieux placé pour nous en sortir. Mais si c'est lui, nous nous rassemblerons autour de lui. Mais en revanche, il ne faut pas laisser entendre qu'il n'y a que lui. Nous avons la chance, et j'ai la chance, d'appartenir à une famille qui compte de très nombreux talents et qui, je suis sûr, pourront jouer un rôle le moment venu.
Et l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, évoque Bruno Retailleau, Valérie Pécresse ou encore Laurent Wauquiez.
Europe 1. Théo Manval.
Merci d'être à l'écoute du Grand Journal du Soir. 18h06, dans un instant, plusieurs centaines de passagers en provenance du Maroc bloqués à bord d'un ferry où des passagers ont été testés positifs au coronavirus. A tout de suite.
Théo Manval.
18h09, la suite de votre journal de 18h. Virginie Salmen avec plusieurs centaines de passagers longuement bloqués cet après-midi dans le port de Sète à bord d'un ferry en provenance de Nador, au nord du Maroc.
Oui, ils sont plus de 400 à bord. Au départ, le préfet de l'Hérault ne voulait pas laisser accoster le bateau. Il y a au moins 5 cas positifs à bord. Après plusieurs heures d'attente, ils viennent tout juste d'être autorisés à débarquer, Diane Berger.
Oui, certains passagers sont même en train de passer la douane en ce moment même, mais la fin du trajet a été chaotique car le ferry pourrait être devenu un cluster géant. À l'origine, il devait donc relier le Maroc à la ville de Sète en moins de 48 heures, mais une fois à bord, la compagnie apprend via des tests PCR réalisés avant l'embarquement que 5 membres de l'équipage sont positifs au coronavirus. Alors, la préfecture refuse d'abord que le bateau arrive à bon port et la compagnie maritime envisage pendant un temps d'accoster à Gênes en Italie, au désespoir des voyageurs dont beaucoup ont la nationalité française. L'un d'eux, Mohamed Ramoun, témoignait plus tôt au micro de nos collègues d'Atlas Info.
On a des gens qui sont malades, il y a des vieux, des familles avec des petits et tout, et la majeure partie aussi qui ont des rendez-vous importants chez des docteurs et tout en France. Merci beaucoup de nous aider.
Finalement, le bateau a pu accoster à Sète il y a environ 2 heures, mais la préfecture n'a toujours pas autorisé dans un premier temps les passagers à débarquer. Elle demandait un protocole sanitaire détaillé pour prendre en charge les passagers potentiellement contaminés. Finalement, d'après nos informations, beaucoup sont déjà sortis du port, visiblement sans plus de contrôle.
Merci pour cette précision, Diane Berger.
Et comme chaque dimanche, il est l'heure à présent, Virginie Salmen, de faire un point sur l'actualité des Outre-mer.
Oui, dimanche dernier, les Calédoniens ont dit non à l'indépendance avec plus de 53% des voix. C'est la deuxième fois que les habitants du Caillou s'exprimaient sur la question. Le oui a d'ailleurs un peu progressé, un plus 3% par rapport au premier référendum il y a 2 ans. Sur place, l'ambiance est glaciale entre les deux camps. La question se pose de savoir s'il faut voter une troisième fois, comme le prévoit l'accord de Nouméa. Reportage d'Elisabeth Noir de notre partenaire, radio-partenaire RRB.
Dans une Calédonie coupée en deux, les échanges ne se font que par médias interposés. Fort de leur score de 46,74%, les indépendantistes veulent un troisième scrutin parce qu'ils estiment qu'ils ont le vent en poupe, comme le déclare Victor Tutugoro, le porte-parole du bureau politique du FLNKS.
Nous battons pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. C'est un droit. Et donc, nous tenons à exercer ce droit. Et donc, le deuxième référendum, nous ne sommes pas souverains et indépendants. Donc, l'exercice de ce droit va continuer et donc nous irons au troisième référendum.
Les loyalistes pensent de leur côté qu'il faut privilégier des discussions. Mais s'il y a un troisième référendum, le non à l'indépendance l'emportera encore, affirme Sonia Backès.
Aujourd'hui, les indépendantistes ont fait le plein de leur voix. Donc, on considère que les indépendantistes n'ont plus de marge de progression pour le troisième référendum. Et donc, si troisième référendum il y avait, il serait gagné par le camp de ceux qui veulent que la Calédonie reste dans la République.
Les loyalistes attendent de l'État qu'il s'implique dans le dialogue pour éviter ce troisième référendum. Il dénonce par ailleurs les perturbations et les intimidations de la part des indépendantistes qui ont créé un climat très anxiogène dimanche autour des bureaux de vote.
Elisabeth Noir est retrouvée le journal des Outre-mer sur Europe 1 dans C'est grand la France le dimanche matin à 6h10 et en podcast.
Merci, c'était le journal de Virginie Salmen. On vous retrouve à 19h30 pour le journal de l'environnement. À tout à l'heure, un coup d'œil à la météo.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Baie, produit de fabrication française. Arcade et Baie vous présente la météo.
Et c'est avec vous Valérie Darmon. Valérie, le Nord-Ouest a profité des éclaircies un petit peu ce week-end, mais pour demain c'est terminé.
Effectivement, une nouvelle perturbation océanique à bord de la Bretagne en matinée. Les pluies qui vont avec y seront continues, mais faibles. Elles se décalent l'après-midi sur la Normandie et les Pays de la Loire. À l'avant de ce premier front pluvieux de cette semaine, le ciel est de plus en plus voilé aussi du nord à l'Aquitaine, avec quelques gouttes qui s'annoncent pour la soirée. Sur les Pyrénées, après les grosses chutes de neige de la nuit prochaine et de ce dimanche, il va neiger encore un petit peu ce lundi matin à partir de 1300 mètres. Sur l'est de la France, le ciel est souvent gris en matinée avec des brouillards, plus variables l'après-midi, et le soleil qui s'impose toujours plus facilement près de la Méditerranée au prix d'un mistral et d'une tramontane toujours assez fort comme ce week-end. Il continue de faire froid, les températures minimales oscilleront entre 4 et 7 degrés en général dans les terres, 7 à 11 en bord de mer, les maximales varieront entre 10 et 16 d'est en ouest et entre 16 et 21 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Valérie Darmon, prochain point à 18h30. Les sports à 18h13 et direction tout de suite les cours de Roland Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Roland Garros, où nous attend Axel, mais Axel Roland est définitivement la maison de Raphaël Nadal.
Ici, c'est sa maison. C'est ce qu'avait dit Novak Djokovic avant la finale et le numéro 1 mondial. Ne croyez pas si bien dire. 13e finale disputée, porte d'Auteuil pour le Mallorquin. 13e succès. Corinne Boulou, vous êtes à mes côtés devant ce court. Philippe Châtrier, dire que c'est le match de tous les superlatifs pour Nadal, là, c'est pas exagéré.
Non, effectivement, c'est une 100e victoire historique sur sa terre battue pour un Rafael Nadal magistral. L'Espagnol conserve son titre après avoir infligé une correction au numéro 1 mondial Novak Djokovic, balayé en 3-7, 6-0, 6-2, 7-5. Et ce sont les yeux embués d'émotion avec un masque rose à son effigie que Rafael Nadal vient de soulever la Coupe des Mousquetaires. Un geste habituel ici pour lui, puisque l'Espagnol remporte, vous l'avez dit, un 13e titre. Alors cette fois, c'était inédit sous le toit du cours Philippe Châtrier. Et dire qu'il était arrivé ici sans certitude dans ce Roland-Garros automnal qui bousculait ses habitudes, lui qui est un homme de rituel, Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui viennent d'ailleurs lors de la cérémonie protocolaire de remercier l'organisation du tournoi d'avoir réussi à maintenir Roland-Garros dans des conditions sanitaires particulières, et Rafael Nadal qui inscrit aussi son nom en égalant le record de 20 titres en Grand Chelem de Roger Federer.
Merci Corinne Boulou. Et notez qu'une Française a remporté un trophée aujourd'hui.
Et oui.
Kristina Mladenovic, oui, gagne le double féminin pour la troisième fois de sa carrière porte d'Auteuil, la deuxième fois de suite avec sa camarade hongroise Timea Babos.
Allez, on passe de la petite balle jaune au ballon rond de football. France-Portugal, Axel May, ce soir à 20h45.
Soit le champion du monde en titre contre le champion d'Europe, match de la nouvelle Ligue des Nations, avec côté français la star Kylian Mbappé et côté portugais une autre star encore plus connue dans le monde, Cristiano Ronaldo. Mbappé avait d'ailleurs dans sa chambre d'adolescent des posters de celui qu'on surnomme CR7. Écoutez à ce propos le sélectionneur français Didier Deschamps.
Je pense que Cristiano a été et est l'idole de beaucoup de jeunes footballeurs. Donc après, c'est difficile de comparer un joueur qui a beaucoup d'années au plus haut niveau. Ils n'ont pas le même âge. Évidemment, Cristiano a sans cesse cette force de pouvoir être décisif à tout moment. C'est une force aussi de Kylian, bien évidemment, en étant beaucoup plus jeune. Mais ce qui les classe les deux dans la catégorie de top joueurs au niveau mondial.
Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps avec Cyril de la Morinerie qui vous fera vivre ce match ce soir sur Europe 1. Et puis Axel May, un record, et pas n'importe quel record, égalé aujourd'hui en sport mécanique.
Oui, oui. Lewis Hamilton gagne le Grand Prix disputé sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, sur les terres de Michael Schumacher. 91e victoire du sextuple champion du monde britannique de F1, qui égale justement le Baron Rouge. Et alors qu'il répondait, figurez-vous, à la traditionnelle interview d'après-course, un invité surprise a fait son apparition. Mick Schumacher, le fils de Mike, est venu remettre au nouveau co-recordman de victoire en Grand Prix le casque de son père, hein, Michael, qui ne s'est jamais remis de sa grave blessure lors d'un accident de ski il y a 7 ans. Et puis pour être complet en sport mécanique, sachez qu'en MotoGP, c'était le Grand Prix de France. Le Niçois Fabio Quartararo se contente de la 9e place, mais d'une course remportée par l'Italien Petrucci. Mais Quartararo conforte son avance en tête du championnat du monde.
Merci beaucoup Axel May pour ce journal des sports complets.
Europe 1, Théo Manval.
À 18h17, la suite du programme. Il a rendu visite cet après-midi aux policiers de sa ville, dans le commissariat attaqué à coups de barre de fer. Le maire de Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne, est avec nous dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
18h20, à l'écoute de votre grand journal du soir sur Europe 1. C'est une nouvelle attaque qui a donc fait beaucoup réagir depuis ce matin. Pas de blessés, mais une nouvelle fois, des policiers et un commissariat pris pour cible la nuit dernière à Champigny-sur-Marne. Bonsoir Laurent Jeanne.
Bonsoir.
Vous êtes le maire d'hiver droite de Champigny, près de 80 000 habitants à l'est de Paris. On l'a décrite, cette attaque, depuis ce matin. Une quarantaine de personnes qui ont fracassé plusieurs voitures, la façade, l'entrée du commissariat à coups de barre de fer, de tirs de feu d'artifice, deux policiers qui se réfugient dans le sas de sécurité. Vous êtes allé cet après-midi à leur rencontre. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces agents ?
Alors j'y étais dès ce matin en fait, hein, dès ce matin pour recueillir leur un peu leurs sentiments et puis surtout les soutenir, parce que l'ensemble des policiers de ce commissariat ont été particulièrement choqués, tout comme les habitants aussi de ce quartier, dont certains habitent juste au-dessus du commissariat. Mmh. Et donc c'est un peu la sidération de voir une attaque en borne organisée prendre pour cible deux fonctionnaires de police dont le seul métier est de sécuriser la vie de ce quartier.
Ce n'est pas la première fois, Laurent Jeanne, que ce commissariat est attaqué. Il l'avait déjà été au mois d'avril en 2018 aussi. Il est au cœur d'un quartier dit sensible, le quartier du Bois de l'Abbé. Quelle réaction vous avez, vous, ce soir face à ce constat d'attaque qui se répète ?
Alors, effectivement, il y avait déjà eu une première attaque au mois d'avril. On était dans la phase de pré-déconfinement, mais le contexte était différent. On avait simplement quelques tirs de mortier et au fond, une attaque contre l'institution que représente le commissariat. Là, on avait véritablement une volonté de la part de ceux qui ont organisé cette bande, une quarantaine de personnes avec des petites boules de pétanque, plus des barres de fer, d'en découdre véritablement et s'en prendre à l'intégrité physique des policiers. Donc c'était véritablement un objectif de casser du flic et rien d'autre.
Et une attaque organisée, dites-vous, qu'on pouvait envisager parce qu'il y avait depuis quelques jours une certaine tension entre habitants et policiers, c'est ce que vous avez dit ce matin. On a entendu dans le journal de 18h le reportage de notre journaliste Pierre Herbulot, dans lequel certains jeunes de Champigny expliquent qu'il y a eu des tensions, un jeune blessé peut-être cette semaine par des agents, c'est quelque chose qui est avéré, qui aurait pu provoquer ces représailles, entre guillemets, ou c'est autre chose ?
Écoutez, ce quartier, qui est un quartier de près de 10 000 habitants, qui est effectivement en politique de la ville, est un quartier où il se passe aussi beaucoup de bonnes choses. Hein. Des femmes relais qui font un travail extraordinaire.
Et il faut le rappeler, vous avez raison de le faire.
Un projet d'incubateur que nous avons lancé cette semaine, incubateur pour créer des entreprises.
Mais pour revenir sur le climat de cette semaine, monsieur le maire.
Et donc, pour vous dire quand même qu'il se passe des bonnes choses et que le climat, on a essayé de l'apaiser pendant ces derniers jours parce qu'on sentait effectivement une certaine tension. Et donc, on a organisé notamment des réunions entre des jeunes et la police. Là, simplement, on a affaire à une bande de délinquants qui veut en découdre avec la police et qui crée une tension et qu'ils ont exacerbé en particulier sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Mmh. Alors, suite à cet incident, peut-être, mais rien n'est avéré en tout cas sur la responsabilité de l'entreprise sur un scooter qui serait tombé avec un jeune dessus qui est blessé à la suite d'une course-poursuite avec les policiers, mais rien ne permet de dire aujourd'hui que les policiers seraient impliqués dans le fait que ce jeune ait été blessé sur ce scooter.
Après l'attaque de cette nuit, on l'a appris ce soir, il y a quelques minutes, une personne est en garde à vue. Vous restez avec nous, Laurent Jeanne, maire de Champigny. Je voudrais accueillir aussi Stanislas Godon, qui est en ligne avec nous, porte-parole du syndicat de police Alliance. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Ce qui s'est passé cette nuit arrive deux jours après une autre attaque beaucoup plus violente, elle à Herblay dans le Val d'Oise, où deux policiers ont été frappés et blessés par balle. Vous vous adressez, vous, directement ce soir au ministre de l'Intérieur ?
Au ministre de l'Intérieur et puis au garde des Sceaux, parce que on ne pourra pas résoudre le problème de la réponse pénale seulement avec l'activité des forces de police. Il faudra bien comprendre que les acteurs dans la réponse pénale qui doit être apportée pour ce genre d'individus, ce genre de criminels, comme ceux qui ont attaqué nos collègues de Herblay, et vous avez eu raison de citer d'ailleurs la proximité dans les dates entre ces deux attaques absolument ignobles qui ont frappé nos collègues. Et heureusement que nos deux collègues devant le commissariat de Champigny ont eu juste le temps de s'introduire et de se mettre en sécurité dans le SAS, parce que sinon les 40 individus, je pense qu'ils n'auraient pas fait de détails. Ils n'étaient pas venus là simplement pour faire des graffitis sur le commissariat de Champigny, ils étaient venus pour faire mal.
Vous devez rencontrer mardi.
Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une escalade, nous le dénonçons depuis plusieurs années. Il faut rétablir l'autorité de l'État, c'est très très important.
Vous avez une rencontre mardi,
raison de citer les bonnes choses qui se font dans les quartiers. Il y a les bonnes choses d'une grande majorité de la population. Et puis, il y a toujours cette minorité qui décide de bafouer les règles de la République et de s'attaquer à ceux qui les représentent et à ceux qui les protègent. Et vous savez ce qui est grave, c'est qu'il y a 5 véhicules qui sont dégradés, 5 véhicules qui donc ne pourront pas être utilisés par mes collègues sur le terrain et 5 véhicules qui donc ne pourront pas être utilisés pour porter secours, par exemple, aux citoyens ou interpeller des individus.
Vous allez rencontrer Stanislas Godon mardi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous allez lui demander précisément ? On a entendu le constat, qu'est-ce que vous allez lui demander ?
Alors, vous savez, souvent, on a tendance à dire qu'il faut des moyens, mais en fait, là, le sujet n'est pas sur les moyens, n'est pas sur les effectifs ou le matériel. Là, le sujet, il est sur cette impunité qui s'est installée, malheureusement, dans la société. Nous avons constaté depuis 2012 une augmentation des violences à l'encontre des forces de sécurité. Maintenant, on n'a plus peur, entre guillemets, je dirais, de s'attaquer aux policiers parce qu'on n'a plus peur de la réponse qui va être apportée.
C'est-à-dire donc, les peines planchers, Stanislas Godon.
Comment ?
C'est-à-dire les peines planchers, c'est ce que vous demandez, le rétablissement des peines planchers pour les attaques contre des policiers ?
Oui, bien sûr.
Alors,
ça fait partie
2014.
Des sujets que nous revendiquons depuis plusieurs années qui ont été un peu tournés à la caricature par certains. Les peines planchers ne veulent pas dire qu'on ne laisse pas de libre arbitre aux magistrats du siège. Simplement, on dit que pour ceux qui attaquent les forces de sécurité, on peut même aller au-delà. On peut parler, par exemple, des pompiers, on peut parler de ceux qui exercent une mission de service public. Il ne peut pas y avoir de peine alternative. Il ne peut pas y avoir d'aménagement de peine parce que sinon, vous avez des individus qui n'ont pas finalement de réponse, font des peines de jour amende, des TIG, des rappels à la loi parfois au pire, le contrôle judiciaire par exemple, ou par exemple le bracelet électronique, ça fait pas partie des réponses qui sont fermes pour nous, pour ceux qui notamment attaquent les policiers.
Il y a eu la suppression des peines planchers en 2014 après un rapport du ministère de la Justice qui les pointait comme contre-productives, hein. Les taux de récidive n'avaient pas baissé, au contraire, depuis 2006, ils avaient augmenté. Je voudrais revenir une dernière fois vers vous, Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne. Parmi les autres pistes que le gouvernement tente de mettre en place, il y a le déploiement des quartiers de reconquête républicaine. Vous en faites partie justement depuis 2018. Vous avez eu plus de policiers. Est-ce que ça vous a apporté une amélioration ou pas du tout ? Vous avez un seul commissariat pour 76 000 habitants, je le rappelle.
Oui, on a un seul commissariat et on est le seul commissariat et la seule ville à disposer d'un QRR, d'un quartier de reconquête républicaine.
Est-ce que ça a amélioré la situation chez vous ?
Oui, ça nous a permis d'avoir 25 policiers en plus. Ça nous a permis déjà de démanteler un certain nombre de réseaux, notamment de stupéfiants. Il y a eu de belles prises, de très grosses prises ces dernières semaines et derniers mois. Donc moi, j'y vois un travail efficace. La police fait de son mieux. Mais en même temps, et d'ailleurs, la population est très attachée à ce commissariat, à ce qu'il reste au cœur du quartier. Il est absolument nécessaire et la population le souhaite. Mais nous avons une vraie difficulté. C'est sur l'investigation où on a besoin d'un peu plus de moyens pour mener à bien les enquêtes et que derrière, comme vient de l'évoquer le représentant de la police, il y a une vraie traduction sur le plan pénale.
La réponse pénale suive. On a bien noté. Merci
voilà,
à vous.
Et aujourd'hui, c'est bien la difficulté.
Merci à vous, Laurent Jeanne, maire d'Hiver Droite de Champigny-sur-Marne, d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Et merci également Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de police Alliance. On va y revenir sur cette question et sur la réponse du gouvernement sur cette politique sécuritaire avec les grandes voix du week-end dans un instant, juste après le rappel des titres.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
18h30 sur Europe 1, l'essentiel de l'info de ce dimanche soir avec vous. Lénaïque Bonnier, bonsoir.
Bonsoir, impressionnant Raphaël Nadal, vainqueur pour la 13e fois à Roland-Garros. Il a balayé Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5. Une personne en garde à vue à Champigny-sur-Marne après la scène de violence de la nuit dernière. 40 personnes ont tenté de forcer la porte blindée d'un commissariat. Les deux policiers qui se trouvaient devant le bâtiment ont eu le temps de se réfugier. Près de 27 000 nouveaux cas, les dernières 24 heures de Covid-19 du jamais vu depuis l'utilisation des tests à grande échelle. Voilà qui ne va pas arranger le mal-être des soignants déjà au bord de la rupture. Une étude de l'Ordre national des infirmiers nous apprend que 40% des 60 000 blouses blanches interrogées ont envie de changer de métier. Et puis le ferry qui attendait au large de Sète a pu accoster, mais personne n'a débarqué à la demande du préfet pour l'instant. Parmi les 430 passagers qui se trouvent à son bord, 5 ont été testés positifs au Covid-19. Ils sont asymptomatiques, mais sont isolés.
Merci Lénaïque, on vous retrouve à 19h pour le journal. Valérie Darmon, un point sur la météo. Quel temps demain sur nos régions ?
Et bien sur les régions méditerranéennes, surtout sur les Alpes-Maritimes et la Corse, retour du beau temps après les quelques orages de ce dimanche. Mistral et Tramontagne, encore turbulents le matin, faibliront en cours d'après-midi. Dans le nord-ouest, le temps se dégrade en revanche, avec la pluie qui débute sur la Bretagne dès le lever du jour et avant la fin de la journée, les pluies qui s'étendront des Charentes aux côtes de la Manche et puis de la Nouvelle-Aquitaine aux Hauts-de-France en passant par le bassin parisien, l'Auvergne et la Bourgogne. Là, le ciel sera plus variable. Du Grand Est à Rhône-Alpes, après un début de matinée gris, parfois brumeux, notamment dans les plaines et les vallées, la tendance est aussi à l'amélioration avec le retour de quelques éclaircies. Les températures au meilleur de la journée, entre 10 à Saint-Étienne et 20 degrés à Marseille.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
Europe Soir Weekend, Théo Manval, les grandes voix.
Votre débat des grandes voix de ce dimanche 11 octobre jusqu'à 19h. Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP, et Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil. Bonsoir à tous les
trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Il a dénoncé l'ensauvagement d'une partie de la société, mais parle ce soir de petits caïds pour dénoncer les incidents de la nuit à Champigny-sur-Marne. Au-delà des mots de Gérald Darmanin, quelle solution surtout pour le ministre de l'Intérieur face aux violences qui ont visé les policiers encore deux fois cette semaine ? Rien n'est simple, des interpellations au vrai bilan des peines planchées. Alors action de terrain, politique pénale, on en débat dans un instant. Les soignants, eux, sont déjà épuisés au moment de retourner au front. La deuxième vague grossit chaque jour, les chiffres en réanimation le montrent. Et les blouses blanches appellent à manifester jeudi prochain, lassés, déçus du Ségur de la Santé. Lénaïque Moniel disait 4 infirmiers sur 10 envisagent aujourd'hui de changer de métier. Alors a-t-on été politiquement à la hauteur de leur engagement, de leur sacrifice du printemps ? Je vous poserai la question, on est ensemble jusqu'à 19h.
Théo Manval, les grandes voix.
Mais pour commencer, comme chaque week-end, vos coups de cœur, vos coups de griffes et vos coups de blues du moment. On va commencer avec vous, Frédéric Dabi. Je crois que c'est un coup de cœur musical que vous avez ce soir.
Oui, c'est un coup de cœur pour la putain d'expo, c'est-à-dire l'expo consacrée au chanteur Renaud. Hein. En effet, la Philharmonie de Paris, pourtant temple de la musique classique, consacre la première exposition consacrée à Renaud, celui qui se définissait comme un chanteur énervant. Alors cette exposition amène plusieurs réflexions. D'abord, une rareté pour un chanteur vivant d'avoir une exposition à son nom.
C'est vrai.
Le seul précédent pour un chanteur vivant, c'était Bob Dylan il y a quelques années. Par ailleurs, la médiatisation de cette exposition, qui débutera, je crois, le 16 octobre, coïncide avec de nouveaux ennuis de santé pour le chanteur récemment hospitalisé à Montpellier. Ça a beaucoup ému ses fans et aussi l'opinion publique. Hein. Il y a une dimension patrimoniale maintenant de Renaud, d'où ce coup de cœur hein, pour ce projet d'exposition, qui retrace à partir d'une approche thématique et non pas chronologique, la diversité, les facettes de l'œuvre de Renaud et du personnage. Il y avait un article aujourd'hui dans le journal du dimanche qui donnait des premières indications avec une place importante accordée à mai 68, la deuxième naissance pour Renaud, ou la dualité de ses racines prolétaire avec son grand-père, mineur, communiste, et bourgeoise avec son père, intellectuel, refaisait surface. Bien sûr, dans cette exposition, il y a une place majeure sur l'enfance, la nostalgie, qui est une véritable obsession de Renaud, et au cœur de son œuvre depuis Chanson pour Pierrot dans les années 70, Mort les enfants, et bien sûr Mistral gagnant, qu'un sondage BVA avait consacré comme la chanson du siècle. Et puis, bien sûr, il y a une dimension politique avec une frise sur Charlie Hebdo qui rappelle, hein, cette frise que Renaud écrivait dans Charlie Hebdo et avait contribué deux fois à sauver financièrement ce journal. Il y a aussi le passage par le cinéma avec Germinal où Renaud avait interprété tout à fait un lentier stupéfiant de vérité. Voilà, j'ai envie de dire, courez voir à partir de la semaine prochaine cette exposition pour laquelle Renaud a confié toutes ses archives.
Ouais, et c'est un monument de patrimoine. Ça vous a bercé, vous aussi, ou inspiré à un moment de votre vie, Renaud, Laetitia Krupa?
Bah forcément, à mon âge, je n'ai pas été...
Soyez pas... Non, moi, je vais vous dire un truc, c'était mon premier concert. Donc, vous voyez, à tous les âges, on peut être bercé par lui. Et comment ne pas l'être? Philippe Moreau-Chevrolet, votre coup de cœur ce soir pour ces... Votre coup de gueule, pardon, pour ces politiques qui ne retiennent pas les leçons de ce qui est arrivé à certains de leurs confrères ou consoeurs.
Oui, un coup de gueule contre la candidature de Jean-Michel Blanquer au régional, candidature annoncée. En ce moment, on a un peu l'impression d'être dans un épisode de Retour vers le futur. Si, comme les médecins l'ont dit sur Europe 1 aujourd'hui, le gouvernement réussit l'exploit d'être plus mauvais dans la deuxième vague que dans la première, il y a certaines choses qui ne changent pas. D'abord, il y a encore une pénurie, bon, de tests et de gants stériles. Mais on a aussi, comme Agnès Buzyn en mars, un ministre en difficulté qui envisage de quitter son poste en pleine crise. Pour se présenter aux élections locales. Donc cette fois-ci, c'est les régionales. Mais c'est un peu comme si les élections locales étaient la machine à recycler des mauvais éléments du gouvernement. Les électeurs apprécieront, notamment en Ile-de-France, où ça devrait être quand même assez disputé. Alors vous me direz, en quoi Jean-Michel Blanquer est-il en difficulté? Eh bien, il y a beaucoup d'éléments. Contre toute logique, le ministre avait pris le parti d'alléger les consignes sanitaires dans les établissements scolaires en prévision de la rentrée. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une explosion des clusters. Les établissements scolaires et universitaires aujourd'hui, eh bien, ce sont les premiers lieux de contamination en France. Les médecins sur les réseaux sociaux, on voit notamment ça sur Twitter, alerte du nombre d'enseignants malades du coronavirus qu'ils ont dans leur cabinet. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui tombent, qui se mettent en arrêt maladie par ailleurs. Et on a des sondages confidentiels, alors qu'ils sont regardés attentivement à l'Élysée et à Matignon, et qui indique qu'il y a plus de 80% des enseignants qui n'aiment pas ou qui déjugent Jean-Michel Blanquer. Donc le ministre est très impopulaire auprès des enseignants.
Et est-ce qu'il va subir le même sort que sa collègue Agnès Buzyn à Paris? C'est un petit peu ce qui vous préoccupe, je crois. Frédéric Dabi, vous, le sondeur, qu'est-ce que vous en dites de cette éventualité?
Je nuancerai un tout petit peu les propos de Philippe, que je comprends néanmoins. C'est vrai que Jean-Michel Blanquer est un des rares ministres qui a, je dirais, crevé le plafond de l'opinion publique, qui est connu de l'ensemble des Français, qui est plutôt apprécié, même si sur la longue durée, sa cote a chuté. C'est vrai que la comparaison avec Agnès Buzyn s'arrête sur la thématique. On n'est pas sur une thématique santé, mais une thématique scolaire, où les Français sont moins sévères à l'égard d'action du gouvernement et sont moins inquiets de laisser leurs enfants à l'école. Et puis plus largement, de manière politique, il y a, on le sait, un problème de bande touche pour le macronisme, avec très peu de personnalités identifié. Jean-Michel Blanquer en est une. Ce serait très compliqué de défier Valérie Pécresse. Une enquête IFOP pour la Tribune et Europe 1 lui avait donné autour de 19% d'attention de vote, loin des 30% de Valérie Pécresse. Mais c'est aussi un risque pour Emmanuel Macron d'arriver en 2022 avec aucune victoire électorale à un scrutin intermédiaire.
On verra s'il prend ce risque. Enfin, Laetitia Krupa, votre coup de cœur ce soir pour Facebook et Instagram.
Oui, Facebook, qui est de toute façon le propriétaire d'Instagram, qui a décidé de durcir les mesures contre les comptes, les pages, les groupes liés à la mouvance conspirationniste QAnon. Je pense que vous connaissez Théo, mais je vais quand même le rappeler pour nos auditeurs. QAnon, ça vient de Q, qui est un compte qui envoyait un message crypté en 2017 sur un forum suivi par beaucoup de conspirationnistes, et Anon pour Anonymous. C'est un mouvement, pour dire vite, d'extrême droite pro-Trump qui gagne du terrain en France. On l'a vu notamment dans les manifestations anti-masques. On a vu des pancartes
pancarte un peu étrange sur la pédophilie, la pédocriminalité. Pourquoi?
Oui, ils estiment qu'il y a un deep state, un état profond.
Exactement.
Qui serait lié à un complot, complot pédophile.
Piloté par un réseau secret composé de milliardaires et de démocrates avec Obama, Clinton, et qui orchestrerait un vaste réseau pédophile. Mmh. Bon, voyez le
niveau. Sans aucune preuve, évidemment.
Exactement. Alors, c'est assez rare que Facebook interdise purement et simplement un mouvement ou une idéologie. Et il y a un reproche constant de la société civile, justement, voilà, d'un manque d'autorégulation aussi de ces réseaux qui servent finalement de médias et de vecteurs à des groupes haineux. Donc, c'est un premier pas qu'il faut saluer. Bien qu'on sache que c'est très difficile de contrôler Internet, on sait bien sûr que QAnon peut aller sur d'autres plateformes et aussi qu'il peut infiltrer, il a commencé à le faire, sous d'autres visages, avec d'autres noms, des groupes style comportement personnel, style yoga, vous voyez, tous ces groupes naturopathes.
C'est une difficulté, effectivement, un réseau tentaculaire. Mais...
il faut faire très attention à ces messages complètement absurdes, mais qui gangrènent et qui empoisonnent l'opinion public.
Et donc ce coup de pouce, ce pouce vert pour Facebook qui tente de limiter la propagation de ces messages complotistes. Merci à vous pour ces coups de cœur et ces coups de gueule. On entame le débat sécuritaire et sanitaire des grandes voix dans un instant.
Europe Soir Weekend. Théo Manval. Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, on refait l'actu avec nos grandes voix du week-end sur Europe 1. Laetitia Krupa, Frédéric Dabi et Philippe Moreau-Chevrolet. On a beaucoup vu ces derniers jours, et c'est une nouveauté affichée. Jean Castex, le Premier ministre, allait sur le terrain sécuritaire. Déplacement à Dijon, Nice, puis Toulouse ce vendredi pour les contrats de sécurité intégrés, apporter plus de moyens dans les zones sensibles. Sauf que, la même semaine, on a donc l'attaque par balle contre deux agents à Herblay dans le Val-d'Oise et celle d'hier au commissariat de Champigny. Laetitia Krupa, on a l'impression que finalement rien ne change.
Bah écoutez, non, c'est vrai que là, tout le monde est affolé. Bien sûr que cette attaque, elle est très impressionnante. Donc tout le monde a l'air de tomber des nues. Malheureusement, depuis combien de temps ça dure, j'en sais rien, c'est très difficile de dater. Depuis quand a-t-on perdu le lien avec certaines populations des quartiers dits sensibles? Certains spécialistes datent ça depuis les années 80, c'est-à-dire que ça fait 40 ans, Théo, que ce lien se disloque. Alors peut-être sommes-nous arrivés au point de rupture.
J'allais vous demander, est-ce qu'on a dépassé quelque chose? Parce que Herblay, cette semaine, Philippe Moreau-Chevrolet, Frédéric Dabi, on a quand même franchi le seuil d'une attaque par balle, où on vole les armes de policiers pour leur tirer dessus.
Oui, c'est vrai que moi, ce qui me frappe, on a vu une enquête IFOP Fiduciale à la rentrée, où on avait une montée jamais vue de la préoccupation en matière de lutte contre la délinquance, qui gagnait 26 points à peine quelques mois, qui n'avait jamais été aussi haute depuis avril 2002. On se souvient de ce qui s'est passé après. Et je pense que là où il y a un tournant, ce qui est très symbolique, ce sont les cibles. Ce sont des conducteurs de bus, ce sont des maires, ce sont des policiers, comme on l'a vu à Herblay et à Champigny, c'est-à-dire des attaques contre des dépositaires de l'ordre public, de l'autorité, de l'État.
Et c'est ça que les Français... Il me semble pas que ce soit si récent, ça a toujours existé. Souvenez-vous, Frédéric,
En 2002, il y avait eu l'attaque de Nanterre où une partie du conseil municipal de Nanterre avait été décimée. C'était en mars 2002 avec les crimes de Richard Dern. C'est vrai que ce qui a frappé les Français en termes de récurrence, et là peut-être qu'il y a une récurrence nouvelle qu'on a vue cet été, c'est l'idée que l'autorité d'État est complètement défaillante, et on l'a vu dans d'autres enquêtes, ça rejaillit directement sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron.
Et justement, Philippe Moreau-Chevrolet, comme à chaque fois on entend et on l'a entendu tout à l'heure à 18h15 avec notre invité Stanislas Godon, porte-parole d'Alliance, un appel au sein de la droite, dans les syndicats policiers, au retour des peines planchers pour les auteurs de violences contre des policiers. Elles ont été supprimées en 2014. Il faut quand même rappeler qu'elles n'ont pas fait preuve de leur efficacité en termes de statistiques.
Non, et puis c'est pas du tout en fait la logique qui prévaut dans les quartiers en termes de prévention. Ce qui avait vraiment bien marché, c'est la police de proximité. C'était un travail au fond de relations entre la police et les habitants pour désamorcer la violence, désamorcer les crises. Cette approche, elle est difficile parce qu'aujourd'hui, on est dans un climat où les gens, effectivement, ont la sensation que l'État n'arrive plus à imposer un ordre public. Ça a été particulièrement visible pendant les Gilets jaunes. Du coup, il y a des réflexes de peur et ça entraîne une crispation de côté comme de l'autre qui n'est pas très bonne. Et on voit pas, enfin, c'est une sorte de spirale. La logique, si on était vraiment calme, ça consisterait à dire rétablissons la police de proximité, Oui, allons jouer au foot avec avec les jeunes des quartiers, parce que c'est ça qui marche. Et c'est la période qui a été la plus tranquille. C'est la période où on avait cette police qui faisait un travail humain, tout simplement.
Laetitia Krupa.
Bah, une chose est sûre, c'est qu'à Darmanin, on commence à en avoir l'habitude, trouve les mots pour marquer les esprits. Alors après l'ensauvagement, on a les petits caïds. Mais c'est vrai que devant ces attaques, vraiment plus que jamais, on le répète inlassablement dans ces émissions, il faut absolument des actes. Mmh. C'est-à-dire qu'il Mais faut est-ce que... résoudre ce problème, il faut Oui. donner à la population, Mmh. parce que la police souffre quand même d'une image abîmée. Vous étiez là aussi, on lui a reproché d'être raciste, on lui a reproché d'être violente, on lui a reproché d'avoir une impunité. Mmh. Et alors, il y a toutes ces couches aussi de critiques qui imprègnent l'opinion publique, toutes les mentalités collectives. Là, il faut marquer un grand coup et prendre des mesures que l'opinion publique, que les citoyens, à la fois à l'intérieur de ces quartiers, bien sûr, mais à l'extérieur, peuvent mesurer aussi. On est capable, nous aussi, nous ne sommes pas des politiques, mais nous sommes capables de voir si des mesures sont efficaces ou non.
Et donc le plus d'agents n'est pas forcément la solution au problème. Les quartiers de sécurité renforcée, Champigny-sur-Marne en fait partie depuis 2018. Le maire nous le disait tout à l'heure, il a eu plus d'agents, 25 en plus. Depuis, il y a eu encore des attaques en 2018, au mois d'avril et cette année.
Oui, c'est pas plus on mettra de policiers, plus on aura de résultats. Maintenant, il y a quand même une problématique qui est la désertion des services publics. Quand on commence à attaquer un commissariat, en fait, on s'en prend au commissariat, mais on s'en prend surtout à l'un des derniers symboles qui tient debout de l'État. Donc, on exprime une défiance vis-à-vis du retrait des services publics aussi. C'est-à-dire que c'est des lieux où il n'y a pas beaucoup de police, mais il n'y a pas non plus beaucoup de postes, il n'y a pas non plus beaucoup d'assistantes sociaux, il n'y a pas beaucoup de services publics en général.
On en avait parlé notamment lors des dernières violences, il y a un an ou deux ans, à la Grande Borne, qui avait vu fermer non seulement les derniers commissariats dans la cité, mais effectivement aussi ses derniers bureaux de poste, Frédéric Dabi.
Oui, tout à fait. On voit, je partage complètement ce que dit Philippe sur l'importance des services publics, qui n'est plus un enjeu clivé gauche-droite. Et pour les Français, des services publics qui reculent, qui ferment, c'est le signe d'un démantèlement et d'un abandon de l'État. Alors, je veux revenir sur les peines planchers. Oui, ce n'est peut-être pas la solution, mais c'est le symptôme de ce que nous disent les Français. Pour eux, la question de l'insécurité, c'est d'abord une insuffisante réponse pénale. Et c'est vrai que les peines planchers, même si on a vu qu'elles n'étaient pas parfaitement efficientes, c'est l'idée qu'il y a de nouveau une réponse pénale.
Et puis, mais je vais redonner deux chiffres, Frédéric Dabi, et puis on s'arrêtera là sur cette question. Mais entre 2006 et 2010, au moment des peines planchers, on a vu le taux de récidive passer de 4 à 6% pour les crimes, de 7 à 11% pour les délits. Donc les chiffres sont là aussi, source ministère de la Justice. En tout cas, voilà, récupérer une partie de la jeunesse de ces quartiers difficiles passe aussi peut-être par la reconquête et la présence des services publics. C'est ce qu'on retient de vos débats ce soir. On va continuer de débattre avec vous, les Grandes Voix, jusqu'à 19h. On va parler santé dans un instant, à la veille d'une nouvelle semaine d'action des Blouses Blanches, qui en ont là aussi gros sur le cœur. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Théo Manval.
L'actu disséqué.
Les Grandes Voix.
L'actu disséquée, expliquée, analysée jusqu'à 19h avec nos grandes voix du week-end, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet et Frédéric Dabi. Et décidément, le Ségur de la Santé n'aura pas calmé la colère. Nouvel appel à la grève nationale pour cette semaine, jeudi prochain, le 15 octobre, dans les hôpitaux. La grève à l'appel du collectif Interurgence, de la CGT aussi, qui avait refusé de signer les accords du Ségur en juillet. Laetitia Krupa, les 15 000 postes annoncés, 7 500 nouvelle création en réalité, et les 180 euros net par mois n'ont pas eu l'effet escompté, hein, visiblement.
Bah visiblement, non. Les personnels de la santé jugent que ce Ségur de la santé n'est pas suffisant. Et on se retrouve face à un problème structurel de l'hôpital qui explose au visage de la France à l'aune de cette crise et de l'épidémie du coronavirus. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe juste qu'il n'y a pas assez de lits ouverts, donc pas assez de personnel. Et on comprend, tant qu'on écoute les infirmiers, les infirmières, les médecins, que ceux qui sont venus pour la première vague, aidés de province, ne reviendront plus. Ils n'ont plus envie de venir. Certains n'ont pas eu les primes. Mmh. D'autres sont en arrêt maladie.
Et puis ils sont à bout. Oui,
ils sont épuisés.
Cette étude de l'Ordre des infirmiers ce matin a publié dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, 60% des infirmiers se disent en surchauffe, en burn-out. Frédéric Dabi, il y a quand même eu 8 milliards d'euros, il faut le rappeler, mis sur la table par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire en plus, selon vous ?
Oui, c'est vrai que le geste sous le pouvoir d'achat, vous l'avez rappelé, hein, 183 euros, donc 90 payés en septembre et 93 en mars, n'a pas suffi à aplanir les tensions, les frustrations. Avec l'IFOP, on avait fait une enquête il y a quelques années avant cette crise sur ces métiers d'infirmiers et il y avait déjà des tensions très fortes en termes de mal-vivre. D'un côté, on disait qu'on faisait le plus beau métier, mais de l'autre, on ressentait une évolution négative et surtout, on n'avait aucune envie de recommander ce métier. Ce qui est particulièrement frappant, c'est sans doute que l'opinion publique va soutenir très fortement ce mouvement. On le voit dans nos indicateurs où on voit s'esquisser de nouveau un procès en impréparation à l'égard du gouvernement sur le mode « vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire, vous aviez 4 mois entre la vague 1, entre la première vague de Covid et la deuxième, vous n'avez pas assez agi », alors que sur le plan économique, les jugements sont nettement plus bienveillants.
Justement là-dessus, Philippe Moreau-Chevrolet, on a vu Emmanuel Macron en visite dans un hôpital mardi, redire « ce n'est pas une question d'argent, on n'arrive pas à faire fonctionner les choses à l'hôpital, c'est une question d'organisation ». Il a remis de l'huile sur le feu.
Oui, parce que pour les médecins précisément, ce sont des champions du système D et de l'organisation, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc c'est vraiment le choc de deux visions, une vision d'hélicoptère statistique. Pour le chef de l'État, tout va bien puisqu'il a des chiffres qui globalement peuvent être rassurants, mais le ressenti n'est pas du tout le même dans les hôpitaux parce que les situations sont très différentes entre l'Île-de-France où il y a une tension extrêmement forte par exemple et la Creuse où on est nettement plus tranquille. Mmh. Et le ressenti des médecins, moi je conseille des groupes médicaux, donc je leur parle au quotidien. Ce qui était leur terreur, c'est que ça recommence comme en mars.
Et c'est en train de repartir.
Oui, ils ont dû faire des choix. Moi j'ai vu un médecin d'un certain âge qui a 20 ans ou 30 ans d'expérience pleurer en parlant de cette période, parce qu'il a dû faire des choix dans les patients qu'il soignait. Et ils ne sont pas payés pour ça, contrairement à ce que l'on pense. Les médecins n'ont pas envie de faire le tri, ils ont envie de sauver des gens. Et quand ils s'aperçoivent qu'on arrive aux limites du système, où ça ne va plus être vraiment possible, pour eux c'est une tragédie. Donc ils ont vraiment ressenti la crise, puissance 10 000.
Et justement, Laetitia Crupa, fort du soutien que mentionnait aussi Frédéric Dabi, on les a applaudis, ces soignants, pendant la première vague, tous les soirs aux fenêtres, on voit cette deuxième vague qui arrive. Est-ce que cette manifestation de jeudi, appuyée par ce soutien populaire, peut réenclencher une dynamique comme on a connue au printemps et qui a mené au Ségur, aux négociations?
Ah bah de toute façon, l'exécutif s'apprête à entamer une grosse séquence de communication. Hein. Emmanuel Macron doit prendre la parole. On ne sait pas encore si c'est une allocution solennelle depuis l'Élysée ou une interview entre TF1 et France 2. Mais en tout cas, il doit s'exprimer sur la crise sanitaire. C'est toujours un peu le problème sur cette crise. Il y a trop de porte-parole, il y a trop de visages. Et c'est vrai que là, on a besoin. On voit que quand même la situation est critique, surtout en Île-de-France. Et donc, on a besoin, encore une fois, que ce soit incarné, que la politique de l'exécutif soit claire, soit comprise de tous, soit assumée et soit incarnée. Donc, il est attendu et le Premier ministre, ce sera demain aussi, devrait s'exprimer notamment sur la sécurité, mais aussi sur la crise.
Eh ben, on va en reparler justement des suites de cette crise, de ce qu'ils ont vécu aussi, de ce qu'ils vivent en ce moment avec deux infirmiers, deux membres du collectif Interurgence qui seront mes invités après le journal de 19h dans un quart d'heure. Merci à tous les trois, Frédéric Dabi, Laetitia Crupa, Philippe Moreau-Chevrolet. C'était le débat des grandes voix de ce dimanche 11 octobre. Merci à vous trois, on vous retrouve la semaine prochaine. Le journal de 19h arrive dans un instant.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
Et bienvenue si vous nous rejoignez au cœur de ce 18-20 au programme de cette deuxième heure à 19h15, je vous le disais, les soignants qui manifesteront à nouveau jeudi. Dans quel état sont-ils face à la progression du virus et qu'espèrent-ils enclencher avec cette nouvelle journée de mobilisation? 19h30, le journal de l'environnement et puis une chanson dans la tête à 19h40, Fabien Lecoeuvre dans l'univers de Lynn Renault. Mais avant cela, un nouveau journal avec vous, Lénaïque Monnier, bonsoir.
Bonsoir Théo, bonsoir à tous.
Car il est 19h sur Europe 1. Merci d'être à l'écoute.
J'ai passé ici les plus grands moments de ma carrière. Jouer ici, c'est une inspiration.
Il aime cette ville, Rafael Nadal, et elle le lui rend bien. Il a surclassé la finale de Roland-Garros, 13e victoire de l'Espagnol dans le Grand Chelem parisien.
Les soignants au bout du rouleau, une pandémie qui ne faiblit pas et des moyens qui manquent toujours. 40% d'entre eux auraient envie aujourd'hui de changer de métier.
Faut-il envisager le retour des peines planchers ? C'est le souhait des syndicats de police après la violente attaque au commissariat de Champigny-sur-Marne cette nuit.
Et puis les astuces pour aller à la salle de sport malgré les restrictions. On franchit la frontière belge à la fin de ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Impressionnant donc, Rafael Nadal, vainqueur à Roland-Garros pour la 3e fois cet après-midi, c'est vraiment son jardin.
Oui, la 13e fois même, et il n'y a quasiment pas eu de finale tant l'Espagnol l'a survolé face à un Novak Djokovic fantomatique. Une victoire 6-0, 6-2, 7-5, Nadal qui compte désormais 20 succès dans un tournoi du Grand Chelem, tout comme Roger Federer, mais ce n'est pas ça qu'il retient.
Honnêtement, je ne pense pas au 20e titre du Grand Chelem, ni au fait que j'égale Roger Federer. Pour moi, aujourd'hui, c'est juste une victoire à Roland-Garros, et ça, ça veut tout dire pour moi. J'ai passé ici les plus grands moments de ma carrière. Jouer ici, c'est une inspiration. Et chaque moment passé ici dans cette ville est inoubliable.
Voilà, quelques mots en français à la fin de Rafael Nadal.
13e victoire. 13e
victoire, c'est impressionnant. Guy Forget, le patron de Roland-Garros, sera l'invité de Mathieu Béliard demain matin à 7h40 pour dresser le bilan de ce drôle de tournoi du mois de septembre.
Mais qui a été plutôt réussi, en tout cas du point de vue sanitaire. 19h02. Sur Europe 1, à la une également ce soir, le personnel médical qui est au bord de la rupture, les naïfs.
Oui, 40% des infirmières et infirmiers seraient prêts à changer de métier. Lassés par les conditions de travail, on ne compte plus le nombre de burn-out des soignants au bout du rouleau. Et Caroline Baudry, ça concerne toutes les strates de la profession.
Oui, manque de lits, manque d'effectifs et manque de matériel. Les soignants affrontent la deuxième vague désemparés. Malgré l'ampleur de la crise sanitaire, rien n'a changé à l'hôpital. Alerte Corinne, aide-soignante aux urgences à Paris.
Au mois de mars, c'était une première. On a fait sur l'instant T. On avait quelques mois après le déconfinement, tout l'été pour pouvoir se préparer. On ne comprend pas pourquoi on nous laisse comme ça. Je peux vous assurer que ce n'est pas normal de laisser des gens 10 heures à 15 heures de temps sur un des brancards. J'ai 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'ai fait la canicule, j'ai fait les attentats. Franchement, là, c'est zéro pointé. Hein.
Sentiment partagé chez les infirmiers. L'Ordre national de la profession a mené l'enquête publiée ce matin par Le Parisien. 57% d'entre eux se disent en situation d'épuisement professionnel. Résultat, près de la moitié veut changer de métier et ils sont déjà nombreux à avoir jeté l'éponge, explique Thierry Amouroux, leur porte-parole.
Il y a 180 000 infirmières qui pourraient travailler et qui ont arrêté de travailler parce qu'elles refusent de travailler dans des conditions dangereuses pour les patients. Certaines sont en stress post-traumatique. La première vague Covid a littéralement broyé les soignants.
Il faut des mesures d'urgence, poursuit-il, ouvrir des lits, créer des postes et rendre le métier plus attractif.
Merci Caroline Baudry pour ces précisions. D'ailleurs, les soignants seront en grève jeudi pour réclamer embauche massive immédiate et revalorisation significative des salaires.
Et on y revient avec mes invités juste après ce journal. Deux infirmiers membres du collectif Interurgence. Il faut dire que le contexte, Lénaïque Monnier, est difficile. 27 000 nouveaux cas en 24 heures ont été recensés.
Il va falloir réduire la fréquence et la taille des dîners entre copains. Déclaration ce matin dans le JDD de l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, qui est membre aussi du conseil scientifique. Les trois semaines qui arrivent risquent d'être très compliquées encore sur le plan sanitaire.
Cette pandémie permettra peut-être en revanche de tirer de grands enseignements de la crise sanitaire, comme par exemple améliorer l'organisation des parcours de soins.
Oui, aujourd'hui, il existe des patients qui n'ont pas besoin d'être intégralement hospitalisés. Mais s'ils habitent loin du lieu de traitement et qu'ils en ont pour plusieurs jours, il faut bien les loger. Ça existe déjà avec les maisons de naissance, mais cela pourrait se développer aussi sous la forme d'hôtels hospitaliers. Jeanne Bergaoui s'est rendue dans l'un des 41 centres qui existent déjà. Reportage à Villejuif.
Sans l'hôtel, on serait un peu coincé quand même, parce que c'est 5 heures de route.
5 heures de route depuis Nancy. Un voyage fatigant qu'Edith doit faire tous les 15 jours pour recevoir son traitement contre le cancer du poumon. Alors, elle arrive la veille pour se reposer dans une chambre d'hôtel plus confortable qu'à l'hôpital.
Ici, on est presque normal, quoi. Pour une nuit, c'est très bien. C'est pas nécessaire d'être à l'hôpital et c'est une très bonne solution.
Ces nuitées d'environ 70 euros sont prises en charge par l'hôpital, explique Stéphane Pardoux, le directeur général adjoint de Gustave Roussy. Elles sont proposées aux patients qui n'ont pas besoin de rester toute la nuit sous surveillance médicale.
En majorité, ce sont des patients qui viennent pour des séjours très courts,
pour des séances, notamment de radiothérapie ou de chimiothérapie, et qui ne peuvent pas rentrer chez eux le soir. Ça permet de désengorger, ou en tout cas d'offrir plus de capacités hospitalières, donc d'aller plus vite dans les prises en charge.
Les deux hôtels au pied de l'hôpital accueillent chaque nuit jusqu'à 24 patients. L'année dernière, environ 1000 personnes ont bénéficié de ce dispositif expérimental.
Jeanne Bergaoui pour Europe 1. Donald Trump affirme qu'il va bien. Il se dit désormais immunisé contre le Covid-19. Peut-être pour une longue période, une courte période, peut-être pour la vie. Voilà ce qu'il a précisé. Ses médecins déclaraient un peu plus tôt que le président américain n'était plus contagieux.
19h06, l'actualité, c'est également ce soir ce commissariat de Champigny-sur-Marne, cible d'une attaque en règle la nuit dernière.
Avec une personne placée en garde à vue ce soir, alors que cette nuit, une quarantaine de personnes ont tenté de forcer la porte blindée du commissariat à coups de barres de fer et lancer des tirs de mortier sans faire de blessés chez les forces de l'ordre, que rencontre d'ailleurs le ministre de l'Intérieur après-demain. Et justement, Stanislas Godon était votre invité tout à l'heure, Théo Manval. Le secrétaire national du syndicat Alliance compte demander au ministre de l'Intérieur le retour des peines planchers.
Pour ceux qui attaquent les forces de sécurité, on peut même aller au-delà. On peut parler par exemple des pompiers, on peut parler de ceux qui exercent une mission de service public. Il ne peut pas y avoir de peine alternative, il ne peut pas y avoir d'aménagement de peine, parce que sinon, vous avez des individus qui n'ont pas finalement de réponse, font des peines de jour amende, des TIG, des rappels à la loi parfois, au pire, le contrôle judiciaire par exemple, ou par exemple le bracelet électronique, ça fait pas partie des réponses qui sont fermes pour nous, pour ceux qui, notamment, attaquent les policiers. Et en tout cas, c'est sûr qu'il y a une escalade, nous le dénonçons depuis plusieurs années, il faut rétablir l'autorité de l'État, c'est très très important.
Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat Alliance, invité du Grand Journal d'Europe 1 ce soir.
Europe 1, Théo Manval.
Dans un instant, votre journal de 19h se poursuit et nous retournons à Saint-Martin-Vésubie où les sinistrés sont encore perdus une semaine après les intempéries.
Théo Manval.
18h08, à l'écoute d'Europe 1, il y a 10 jours, les intempéries ravageaient l'arrière-pays niçois et sur place, le retour à une vie normale est encore inenvisageable.
Oui, le bilan de ces intempéries est toujours provisoire. Il est de 6 morts, 9 personnes portées disparues et 13 supposées disparues. Sur place, à Saint-Martin-Vésubie, les habitants pensent toujours leur plaie. La maison d'Yvette a tenu le coup, elle est toujours debout, mais elle ne peut plus vivre dedans. Écoutez-la.
Elle n'est pas partie, mais... elle va sans doute partir, même si elle part pas, on sera jamais sûr dedans. Dès qu'il se mettra à pleuvoir, on aura peur. On est presque au bord de la route, donc au bord du torrent, quoi. Bon, écoutez, on verra bien. J'ai fait la déclaration de sinistre et c'est tout, mais j'ai pas de nouvelles après. Je vous dirais que j'ai pas appelé parce que faut pas rêver. Et la maison, il n'y a pas d'eau dedans. Mais si le terrain est instable, on va pas nous laisser dedans. Il n'y a rien qui retient la route, donc en fait, si la route part, le restant aussi. Puis on est dépassé. On n'arrive plus à... on sait plus quel jour on est, on sait plus.
La douleur, toujours cette semaine encore, d'Yvette, habitante de Saint-Martin-Vésubie, interrogée par notre envoyé spécial dans les Alpes-Maritimes, Jean-Jacques Herry. Le ferry qui attendait au large de Sète a pu accoster, mais personne n'a débarqué pour l'instant à la demande du préfet. Parmi les 430 passagers qui se trouvent à son bord, 5 ont été testés positifs au coronavirus. Ils sont asymptomatiques et ont été placés à l'isolement.
On termine les naïcs avec Zinedine Zidane, Zizou au secours des salles de sport fermées à cause du Covid.
Oui, c'est une tribune parue dans le JDD ce matin où l'entraîneur du Real et plusieurs dizaines d'autres personnalités appellent à rouvrir les salles de fitness dans les zones en alerte maximale. Mais pour ceux qui sont vraiment en manque, il y a une autre possibilité, comme traverser la frontière entre la France et la Belgique. C'est ce qu'a fait pour Europe 1 Maximilien Carlier.
Allez. Geoffrey, physique de bodybuilder, enchaîne les exercices sur les machines. Ce nordiste vient à la salle en Belgique quasiment tous les jours. Le sport, c'est vital pour lui.
Moi personnellement, je suis un ancien obèse, j'ai besoin de m'entraîner. Et on est obligé de s'exiler, entre guillemets. S'il faut, je déménagerai pour m'entraîner. Et ça me revient très cher. Le Covid revient très cher, franchement.
Car chaque semaine, c'est un plein d'essence en plus pour faire la route. Ajoutez à cela l'abonnement mensuel, 45 euros. L'arrivée de petits nouveaux, eh bien, ça perturbe un peu les habitués comme Nathalie.
On voit beaucoup de Français. D'ailleurs, quand on voit le parking en arrivant, ben voilà. Ah ben, pas de place. On avait la salle pour nous d'habitude. Donc là, on doit partager.
Mais cet afflux nordiste, eh bien, c'est une aubaine pour la gérante d'Universal Fitness, Déborah.
On estime sur 2 semaines une centaine d'abonnements. Et certains sont déjà transformés en abonnements annuels. Ouais, c'est chouette. Maintenant, on a bien conscience que c'est en attendant.
Et pour éviter qu'il y ait trop de monde dans la salle de musculation, cette responsable a dû réduire les horaires d'ouverture pour les clients occasionnels. Et ils viennent principalement de la métropole lilloise. Moucron, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et puis le sport sur les terrains, c'est tout à l'heure, évidemment, sur Europe 1. France-Portugal, Ligue des Nations, à 20h45.
À suivre sur Europe 1. Merci beaucoup. C'était Lénaïc Monnier pour le journal. On vous retrouve à 19h30. Un coup d'œil à la couleur du ciel. Valérie Darmon, après une journée déjà bien grise et pluvieuse, à quoi va ressembler notre semaine ?
Eh bien, la semaine s'annonce toujours très fraîche et toujours très pluvieuse. Malheureusement, je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Alors, ce lundi d'abord, une perturbation apporte de la pluie dans l'ouest. C'est plus calme, plus sec, mais assez nuageux sur tout le reste de la France, sauf sur les régions méditerranéennes qui retrouvent le soleil. Mardi, la perturbation arrivée ce lundi par l'ouest finira sa traversée par l'est, arrosant tout le pays. Et cette fois, le temps tourne à la pluie aussi sur les bords de la Méditerranée. Et le vent du nord, sensible, accentue la sensation de froid. Mercredi, c'est la journée la plus agitée de cette semaine, pluie soutenue dans l'est, averse à l'ouest, et il neigera au-dessus de 1000 mètres en montagne. La fin de la semaine, c'est pas mieux. Jeudi et vendredi, le temps va rester instable et très frais sur quasiment tout le territoire, avec de la neige en moyenne montagne, dès 1200 mètres. En Méditerranée, vous retrouverez le soleil au prix toujours d'une forte tramontane qui se sera calmée entre les deux week-ends, alors que les averses parfois fortes et orageuses persisteront entre la Corse et les Alpes-Maritimes. Et puis les températures, elles sont toujours dignes d'une fin novembre cette fois, 11 à 16 degrés en moyenne d'est en ouest et jusqu'à 19 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Les sports à 19h12 sur Europe 1 et d'un coup droit en bord de ligne, on file tout de suite à Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Où nous attend Axel May. Et Axel, les Roland-Garros passent et se ressemblent. 13e victoire en finale ce soir de Rafael Nadal.
Oui, même en automne avec une terre battue lourde, l'Espagnol n'a eu besoin que de 3-7 et moins de 2h45 pour battre Novak Djokovic. Incroyable, écoutez le consultant tennis d'Europe 1, Cédric Pioline.
Il a fait un match énorme alors qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient plutôt contre lui, notamment comme beaucoup lorsque ils ont fermé le toit juste avant la finale. Je me suis dit tiens, ça va plutôt aller dans le sens du Serbe et puis non. Mais je trouve que sur cette édition où finalement il l'a d'une certaine manière survolé, puisque d'abord il a perdu aucun set, on a vu le scénario de cette finale. Et je dirais que si on pouvait résumer en trois mots, Nadal, c'est vraiment analyser, s'adapter et vaincre. Et c'est vraiment ce qu'il a fait durant cette quinzaine.
Cédric Pioline avec Corinne Boulou. Avant ce 13e succès, notez que la Française, Kristina Mladenovic, a remporté une nouvelle fois le double féminin. Oui, on est quand même content pour elle avec sa camarade hongroise Timea Babos. Ambiance.
Vainqueur du double dames Roland-Garros 2020. Elles obtiennent leur 4e titre en Grand Chelem ensemble. Le 2e ici à Roland-Garros. Timea Babos, Kristina Mladenovic.
Timi, ça va être dur. Il y a à peine quelques semaines, on a été injustement disqualifié de l'US Open. Être ici avec toi, avec ce trophée, c'est quelque chose de très fort. Pour vous, le public, les téléspectateurs, je croise les doigts pour que la situation sanitaire s'améliore dans le monde entier et que l'on se retrouve dans quelques mois pour un vrai Roland. À l'année prochaine. Merci.
Voilà, applaudissements pour cette victoire franco-hongroise, Kristina Mladenovic. Après le tennis, Axel May, place au football. France-Portugal ce soir en Ligue des Nations.
Coup d'envoi à 20h45 avec un duel dans le match Mbappé face à Cristiano Ronaldo. Cyril de la Morinerie, vous êtes en direct du Stade de France.
Oui, Cristiano Ronaldo est bien arrivé au Stade de France. Survêtement vert et noir, basket blanche, masque noir, concentré dans cette enceinte qu'il connaît bien. On se souvient de ses larmes en 2016 lors de cette finale de l'Euro face aux Bleus lorsqu'il était sorti du terrain et de sa joie ensuite cajolant ce trophée qu'il ne voulait plus quitter. Kylian Mbappé n'était pas là, bien sûr, il y a 4 ans, mais ce soir, eh bien, le Français qui est arrivé casquette rouge sur la tête va pouvoir affronter son idole, lui qui avait des posters de CR7 dans sa chambre. À 21 ans, Kylian Mbappé est déjà champion du monde, mais il espère prendre le relais et lui aussi remporter plusieurs ballons d'or comme Ronaldo. Voilà, entre le maestro portugais spécialiste des coups francs et frappes imparables et la fusée française, on devrait ce soir se régaler.
Cyril de la Morinerie, que l'on retrouvera bien sûr dans l'émission Europe 1 Sport avec Lionel Rosso. Tiens, Lionel, bonsoir. Il n'y a pas que Cristiano Ronaldo au Portugal quand même.
Absolument, il y a d'autres joueurs et des grands joueurs de talent. On en parlera à partir de 20h dans nos grands débats avec nos experts, des jeunes joueurs, des pépites comme l'on dit, qui évoluent à Manchester, à Liverpool ou encore à Barcelone. Et ce sera aussi l'occasion peut-être de découvrir ou de redécouvrir Danilo Pereira, ce milieu de terrain très longiligne recruté par le Paris Saint-Germain. 40 sélections, il paraît qu'il ratisse mieux les ballons que Verratti et surtout qu'il a un très très bon pied droit. On verra ça donc ce soir et on décortiquera évidemment l'avant-match avec nos experts à partir de 20h.
Merci Lionel.
Et merci à vous Axel May pour ce journal des sports.
Europe 1, Théo Manval.
Juste après la pause, ils sont infirmiers, ils sont dévoués, mais ils sont fatigués et ils appellent à la grève. Jeudi, deux blouses blanches en colère sont nos invités dans une minute.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 à l'écoute de votre grand journal. Il est 19h18, la deuxième vague est déjà là dans l'épidémie de coronavirus. 27 000 nouveaux cas en 24 heures, 1 500 lits occupés sur les 5 000 disponibles en réanimation dans tout le pays. Des hôpitaux à Paris ou Lyon déprogramment déjà des opérations pour faire de la place aux patients Covid. Et face à cela, les soignants sont déjà épuisés. Ils manifesteront à nouveau cette semaine. Et vous en serez, Pierre Schwob-Tellier, bonsoir.
Bonsoir.
Infirmier à l'hôpital Beaujon à Clichy et membre du collectif Interurgence. Vous aussi, Estelle Gajewski, bonsoir.
Bonsoir.
Infirmière puéricultrice au centre hospitalier d'Épernay dans la Marne. Appel à la grève, donc jeudi 15 octobre. Pierre Schwob-Tellier, pour quelle raison ?
Alors, tout d'abord, le 15 octobre, c'est le jour de vote du plan de loi de financement de la sécurité sociale. Et nous, on va manifester parce que tout d'abord, les résultats du Ségur n'ont absolument pas été satisfaisants et n'ont absolument pas répondu à la problématique de l'hôpital. On constate une démission en masse des professionnels paramédicaux et médicaux. Et on a du mal à recruter, très clairement, à l'hôpital public. Les conditions de travail sont de pire en pire. Sur Paris, on annonce depuis presque un mois que les vacances d'octobre, novembre, décembre sont mises entre parenthèses, en quelque sorte. Il y a des risques que les gens ne puissent pas partir en vacances.
Sur la base du volontariat, mais on leur demande possiblement de reporter effectivement leur congé si possible. On va revenir sur le manque de personnel, de lits, sur votre déception du Ségur de la Santé, mais je voudrais savoir aussi, Estelle Gajewski, déjà dans quel état physique, psychique aussi, vous vous sentez, vous, après tous les efforts de la première vague et alors qu'on voit la deuxième grossir de plus en plus ?
Bah, clairement, certains personnels sont épuisés, hein, fatigués. Il y en a certains qui sont en burn-out parce que la première vague a été compliquée dans certains centres hospitaliers, tant en termes de travail, de stress, parce qu'on ne savait pas trop à quoi on avait affaire, en termes de moyens de protection qui n'étaient pas adaptés ou qui manquaient, puisqu'on a quand même géré une pénurie de moyens de protection individuelle. Donc, en fait, là, pour la deuxième vague, la plupart des soignants sont inquiets parce qu'on ne sait pas si l'État a réellement compris et analysé pour anticiper cette deuxième vague. On est un peu méfiant, en fait.
Le Ségur, c'est un échec pour vous, Pierre Schwob-Tellier. Vous vous dites, on repart dans cette deuxième vague, justement, avec les mêmes moyens que pour la première, c'est-à-dire pas assez ?
Avec moins de moyens humains, très clairement.
Moins de moyens.
On repart avec moins de moyens humains et on repart. On est dans une situation qui est pire que ce qu'on avait eu quand on avait commencé notre mouvement il y a un an et demi.
Pourquoi dites-vous moins de moyens ? Il y a eu 7500 créations de postes annoncées lors du Ségur, elles ne sont pas encore là ?
Non, mais il y avait déjà 7500 créations. Il y avait déjà 7500 postes qui n'avaient pas trouvé preneur. Ils ont rajouté 7500 postes. On peut en rajouter encore 10 000. Enfin, après, il manquera 25 000 personnes.
Ils ne sont pas pourvus.
La essence publique, donc non, personne ne vient. Donc pour l'instant, c'est que des chiffres, comme les lits. Hein, on peut ouvrir des lits, mais s'il y a personne à côté, ce ne sont encore que des chiffres.
C'est-à-dire que les 183 euros nets d'augmentation qui ont été promis et qui sont en train d'arriver là, ils n'ont pas permis de résoudre encore ce problème d'attractivité. Vous n'avez pas de candidats pour pourvoir ces postes.
Alors très clairement, si les gens partent, c'est pas pour. Si les gens hésitent à partir, c'est pas pour 183 euros qu'ils hésitent à partir. Tant que les conditions de travail ne seront pas Là, non, les gens ne resteront pas. Je veux dire, entre l'argent et les conditions de travail, à l'heure actuelle, on préférera améliorer nos conditions de travail et les conditions d'accueil des patients.
Pierre Schwob-Tellier et Estelle Gajewski, vous êtes tous les deux infirmiers en centre hospitalier. On a vu ce matin cette étude publiée, cette enquête publiée par l'Ordre des infirmiers. 40% des infirmiers, vous peut-être, vos collègues, 40%, presque la moitié, ont envie de changer de métier. Vous le constatez au quotidien, cette envie de partir ?
Ben moi, pour ma part, oui, hein, on est plusieurs à se dire sur des journées chargées, ouais, on va changer de métier parce qu'en fait, l'intensité du travail n'est pas reconnue. Les conditions de qualité et de sécurité des soins qu'on décrit depuis plusieurs mois démontrent bien qu'on est dans la difficulté et que c'est pas comme ça qu'on veut exercer notre métier, en fait. Mmh. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir assurer une sécurité et pour les soignants et surtout pour les patients, qu'on arrête de se plonger dans tout ce qui est administratif ou ce qui pourrait être financier, en fait.
Donc clairement, vous-même, vous vous êtes un jour posé la question « j'arrête tout ».
Ouais, de changer carrément de métier, de faire autre chose. Je ne suis pas la seule.
Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir précisément avec cette nouvelle journée de grève jeudi ? On se posait la question tout à l'heure avec les grandes voix. Est-ce que vous espérez enclencher à nouveau un mouvement qui vous permette d'obtenir des choses, peut-être du gouvernement ? Vous pensez que c'est possible ?
Bah, je l'espère parce que en fait, depuis que le collectif Inter-Urgence est né, c'est la première fois quand même que la voix des paramédicaux est enfin entendue. Et donc tout ce qui est couché sur le papier, sur le plan du Ségur, c'est beau sur papier, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est appliqué sur le terrain. C'est clairement très difficile. Oui, on espère clairement être entendu, pouvoir participer à des projets, que les professionnels de terrain soient enfin entendus et qu'ils puissent participer. C'est ça le plus important.
Pas entendu et pas d'impact au quotidien, dites-vous. Pierre Schwab-Tellier, sur la question des lits, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé vendredi 50 millions d'euros débloqués pour pouvoir ouvrir, dit-il, 4000 lits à la demande dans les hôpitaux là où il y a des besoins dès le mois de décembre. Alors ça aussi, c'était promis dans le Ségur. Ça vous paraît avoir une chance d'être effectif ?
Non, mais à côté, c'est la politique globale. Enfin, je veux dire, la politique de fermeture de lits, elle continue. On a plein d'exemples.
100 000 fermés depuis 20 ans, c'est le chiffre que vous reprenez depuis le début du mouvement.
Mais ça continuera. Enfin, je veux dire, moi, je suis à l'hôpital Beaujon. L'hôpital Beaujon et l'hôpital Bichat doivent se réunir pour former un seul hôpital où il y aura une fermeture de 400 lits. À l'heure actuelle, l'hôpital Beaujon, c'est 396 lits. On ferme un hôpital, on ferme deux hôpitaux pour en ouvrir un. Donc, en fait, la politique de fermeture de lits continue. Pendant un an et demi, on s'est battu contre une politique d'austérité. Aujourd'hui, en réalité, on se bat contre une politique de destruction
rapide
du système de l'hôpital public et du système de santé français.
Et rapidement, on en arrive à des situations comme celle qu'on a entendue hier sur Europe 1 avec ce reportage de notre correspondant à Nantes, où on a ces soignants du CHU qui continuent de travailler alors qu'ils sont positifs au Covid. C'est des choses qui existent aussi parce que sinon, les tableaux de service ne pourraient tout simplement pas fonctionner.
Ben tout à fait. Enfin, je veux dire, on a des consignes internes. Les personnels qui sont asymptomatiques peuvent continuer à travailler.
Et c'est ce qu'ils font, notamment à Nantes, au moins plus d'une dizaine. Merci à vous, Pierre Schwab-Tellier, infirmier à l'hôpital Beaujon à Clichy. Merci à vous aussi, Estelle Gajewski. Vous êtes infirmière puéricultrice au centre hospitalier d'Épernay. Tous les deux membres du collectif Inter-Urgence. Et vous serez donc dans la rue jeudi, on l'a entendu, pour une nouvelle journée de mobilisation. Merci d'avoir été avec nous en direct ce soir sur Europe 1.
Europe 1. Théo Manval.
Dans un instant, le journal de l'environnement, l'essentiel de l'actu et nos invités dans Planète Sauvage. On prendra la direction d'un zoo-refuge près de Chartres, vous allez voir. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Théo Manval. Le journal de l'environnement.
Avec, comme chaque week-end sur Europe 1, Virginie Salmen, que l'on retrouve. Rebonsoir Virginie.
Bonsoir Théo, bonsoir à tous.
Les agriculteurs vont devoir se passer du glyphosate dans certaines situations. L'agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, a annoncé en fin de semaine, vendredi matin, une série d'interdictions de cet herbicide controversé. Concrètement, ça devrait faire baisser de 50% les volumes de glyphosate utilisés. D'abord Virginie, soyons précis, dans quel cas est-ce que ça va être interdit et puis surtout dans quel délai ?
Alors en fait, les experts cherchent dans chaque situation, pour chaque type de culture, une alternative sans produits chimiques. Ils ont trouvé, par exemple pour la vigne, les bandes, vous savez, de mauvaises herbes entre guillemets qui poussent entre les rangs, eh bien elles font concurrence à la vigne, elles prennent des nutriments de la terre, donc il faut les éliminer, mais il est possible tout simplement de tondre avec un tracteur. Donc dans ce cas, le glyphosate sera désormais interdit. En revanche, sous les pieds de vigne, ce sont des zones très difficiles d'accès, là le glyphosate reste autorisé sur ces zones-là, c'est-à-dire sur 20% de la parcelle et à des doses plus faibles. Donc au total, c'est une réduction de 80% sur les vignes par rapport à la dose maximale autorisée actuellement moyennement par hectare, mais évidemment il y a des exceptions. Par exemple, dans les vignes où le terrain est escarpé, caillouteux ou en terrasse, donc difficilement accessible aux tracteurs pour désherber, là le glyphosate restera autorisé.
Adaptation locale. Est-ce qu'il y a d'autres types de cultures où le glyphosate sera interdit ?
Oui, c'est la même logique pour les vergers d'arbres fruitiers, ce qui veut dire par exemple pour les fruits récoltés au sol, sous les arbres, comme les noix ou les pommes à cidre, là le glyphosate reste autorisé. Il y a des interdictions nouvelles aussi pour les champs de grandes cultures, donc le blé, le maïs, le colza ou les pois, et puis pour les forêts, pour l'exploitation du bois. Les étiquettes des produits à base de glyphosate doivent être modifiées avec les nouvelles doses réglementaires d'ici 6 mois. Et puis certains produits à base de glyphosate sont retirés du marché, d'autres conformes aux nouvelles normes sont autorisés.
Et la SNCF, Virginie, on en a beaucoup parlé, les épandages de glyphosate sur les voies ferrées, qu'en est-il ?
Alors pour l'instant, les experts de l'ANSES n'ont pas trouvé d'alternative au glyphosate sans inconvénient économique majeur. Et il y a des risques à laisser pousser des herbes sur les voies, donc pour l'instant, ça reste autorisé.
Mais les scientifiques n'ont toujours pas tranché sur la dangerosité vraiment de la substance.
Non, effectivement, sur la toxicité du glyphosate, les scientifiques débattent toujours. Le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, a classé le glyphosate comme cancérogène probable en 2015. Les agences sanitaires des différents pays européens n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Et donc, c'est en 2022 que l'Europe doit trancher en réautorisant ou pas le glyphosate comme substance active.
Votre journal de l'environnement, comme chaque week-end, merci beaucoup Virginie Salmanet. À la semaine prochaine.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
19h30 sur Europe 1. Le rappel des titres avec vous, Lénaïque Monnier.
Des tirs au mortier d'artifice contre des véhicules de police au Mans. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. 3 personnes ont été interpellées et 2 placées en détention provisoire. Alors qu'à Champigny-sur-Marne, cette nuit, c'est un commissariat qui a été attaqué à coups de barre de fer et là encore de tirs de mortier. Une personne a été placée en garde à vue ce soir. Les syndicats de police rencontrent le ministre de l'Intérieur après-demain. Dans l'actualité également, ces soignants au bout du rouleau, 40% des infirmiers ne seraient prêts à changer de métier. Ils sont lassés par leurs conditions de travail et font des burn-out à répétition. L'ordre des infirmiers alerte ce matin dans les colonnes du Parisien. Tout ça dans un contexte particulièrement difficile. 27 000 nouveaux cas recensés en 24 heures. La courbe ne s'inverse pas. Au contraire, c'est un nouveau record depuis l'utilisation des tests à grande échelle. Les passagers du ferry stationné à Sète ont été autorisés à débarquer ce soir. 430 passagers venus du Maroc ont dû rester à quai une bonne partie de la journée, car 5 personnes avaient été testées positives au Covid-19. Impressionnant, Rafael Nadal, vainqueur pour la 13e fois à Roland-Garros. L'Espagnol a balayé Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5. Nadal compte désormais 20 succès dans un tournoi du Grand Chelem, tout comme Roger Federer. Et puis, autre record qui est égalé, Lewis Hamilton, qui a remporté le Grand Prix de l'Eifel. Le Britannique remporte son 91e succès en F1. Il atteint le record de Michael Schumacher. Enfin, du foot ce soir sur Europe 1. France-Portugal, c'est la finale, la revanche de la finale de l'Euro 2016. Cette fois-ci, c'est juste de la Ligue des Nations, mais c'est quand même à suivre en direct intégral sur Europe 1.
Avec plaisir à partir de 20h45. Merci Lénaïque, on vous retrouve tout à l'heure à 20h. Un coup d'œil à la météo, Valérie Darmon. Et je ne vais pas ravir nos auditeurs en disant ça, mais on est toujours sur un temps de novembre, hein, c'est ça ?
Et oui, avec le retour de la pluie par la façade atlantique et les côtes de la Manche, des brouillards fréquents le matin du sud-ouest à la Lorraine et surtout un thermomètre bien bas et sous les normales 5 degrés sous les moyennes de saison avec des maximales entre 10 à Saint-Étienne et 20 degrés à Marseille, 13 annoncés à Lille, 14 à Paris, 15 degrés à Tarbes et 17 à Avignon. Ce gris à souhait accompagné d'un vent de nord sensible qui refroidit l'atmosphère déjà maussade à cause des nombreux nuages et des averses.
Voilà, programme sympathique. Merci Valérie, à tout à l'heure.
Europe Soir Weekend. Théo Manval. Planète Sauvage.
Et voici Planète Sauvage. Comme chaque dimanche, l'actualité des animaux sur Europe 1 avec cette semaine un coup de projecteur sur le tout premier zoo refuge de France. Il ouvre ses portes au grand public à partir de samedi prochain. Et c'est chez vous, près de Chartres, Patrick et Francine Violas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes les fondateurs de La Tanière, ce zoo-refuge donc à Nogent-le-Faille précisément, où vous recueillez déjà des animaux qui viennent de laboratoires, de cirques, des animaux maltraités ou des animaux détenus illégalement. Vous avez commencé il y a une dizaine d'années. Comment vous est venue cette idée, vous qui jusqu'alors aviez fait fortune dans un tout autre monde, celui de la téléphonie ?
L'idée, c'est, on était installé au départ en ferme pédagogique avec que des animaux domestiques, vaches, moutons, cochons, chevaux, mais déjà tous animaux à trois pattes issus de problèmes. Mmh. Et puis le hasard des rencontres avec Florence, notre vétérinaire, des spécialistes, Lisa et Paolo, a fait qu'on avait constitué une équipe et qu'on a vu la demande croissante des animaux et de retraités de cirque et de laboratoires et de détenus illégalement. Et on a démarré et après le projet a pris le dessus sur nous.
Mais vous qui étiez donc dans le secteur des nouvelles technologies, cette fibre animalière, cette fibre sensible, elle vous vient d'où ?
Philanthropique, mon mari et moi depuis toujours, on l'a démontré dans notre première vie en faisant beaucoup de sauvetage sociaux, on va dire entre guillemets, auprès des personnes. Et je pense qu'on n'a pas de cœur, hein, on a un cœur pour aimer et puis c'est tout.
Le principe donc de la tanière, on va le réexpliquer. Qui vous contacte ou comment vous repérez, récupérez ces animaux donc, qui ont eu une vie souvent très difficile ?
Alors on a rarement besoin de repérer, on est contacté en moyenne 8 à 10 fois par jour. Alors soit pour des saisies, des détentions d'animaux dans des conditions qui ne sont pas les bonnes, soit des détentions illégales. Des gens du cirque qui nous appellent avec des animaux à mettre à la retraite. Il y a longtemps qu'on a commencé à accueillir les animaux de cirque. Mmh. Et puis les particuliers aussi qui ont des animaux sauvages qui savent qu'ils ne peuvent pas les avoir, nous les amènent. Et puis depuis un an et demi maintenant, les primates de laboratoire, nous en sommes à une trentaine de primates de laboratoire, des animaux qui ont travaillé toute leur vie sur la maladie d'Alzheimer, de Parkinson. Nous, on estime simplement qu'on leur doit une petite retraite. Encore demain, nous arrivent 14 vaches de laboratoire.
C'est une belle retraite que vous leur offrez. Justement, vous avez acquis une vraie notoriété. Hein, donc, il y a des cirques, des particuliers, des laboratoires qui viennent vous voir. Comment est-ce que vous vous êtes fait connaître dans le milieu pour sauver, récupérer le plus d'animaux possible ?
Alors, on s'est fait connaître dans ce milieu de par le fait qu'on n'apporte aucun jugement sur les hommes qui détiennent ces animaux en captivité. Qui on serait pour juger ? Quand on veut sauver, il faut être bienveillant, il faut penser à l'animal.
Justement, quel type d'animaux vous récupérez le plus ? Vous venez de nous dire que demain, vous arrivez 14 vaches de laboratoire. Je crois que vous avez aussi des animaux un peu plus exotiques, entre guillemets, des animaux de cirque.
Oui, on a aujourd'hui une douzaine de gros fauves déjà, lions, tigres, léopards. Nous avons des ours, le dernier ours est arrivé il y a 8 jours. Mmh. Nous avons des otaries, des primates de cirque aussi, et des chameaux aussi qui viennent de cirque, enfin toute une ribambelle d'animaux. Beaucoup de petits singes qui nous arrivent beaucoup, c'est la demande elle est forte sur les singes, et aussi et surtout, mais là c'est pas les cirques, c'est les particuliers.
Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une recrudescence, je crois, de ces derniers mois d'abandon de ces petits animaux sauvages qui sont à la vogue dans certains cercles. Je crois qu'il y a des félins, des singes aussi, qui viennent de gens qui ne sont pas vraiment censés en avoir, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir ces animaux-là chez soi.
Oui, ça fait partie d'une mode actuelle de gens qui prennent des animaux sauvages, tels que des félins, pour le look un petit peu. Et c'est vrai que c'est... Il y a toujours eu des phénomènes de mode. Hein.
Ça vous postez des photos sur les réseaux sociaux, comme on le voit beaucoup en ce moment. Ouais. Il vous arrive dans quel état, du coup, ces animaux, qui ne sont pas forcément maltraités, mais souvent négligés, peut-être plus ?
C'est rarement de la maltraitance active. On a eu dans notre vie, notre expérience depuis 10 ans, un seul cas de maltraitance, c'était l'ours Micha. Sinon, c'est souvent de la maltraitance passive, c'est de l'amateurisme. C'est-à-dire que les gens prennent un petit singe ou même un écureuil ou un petit fauve et ne savent pas avec quoi le nourrir, ne savent pas s'en occuper. Et le petit fauve, il reste de bébé pendant 3 mois simplement. Après, on ne peut plus le détenir en appartement. Donc, il nous arrive rarement dans un sale état, rarement... Quelquefois aussi, on a récupéré l'autre jour un petit capucin avec avec 14 fractures parce qu'il était enfermé dans le noir et qu'il manquait de la vitamine, du soleil, etc. et que ses os étaient fragilisés.
Alors, donc ça un petit singe avec 14 fractures.
14 fractures, quand il est arrivé, on le tenait au creux de nos mains et on pensait qu'il n'allait pas passer la nuit et aujourd'hui il court partout, il grimpe partout.
C'est-à-dire qu'il avait cette maladie des os de verre qui sont dues à des carences alimentaires.
Patrick et Francine Violas, vous êtes donc installés à Nogent-le-Faille, près de Chartres, pour ce zoo-refuge qui, au départ, en 2011, je crois, à vos débuts, était une ferme pédagogique. C'est devenu un refuge. Et donc, samedi prochain, vous l'ouvrez au public pour la première fois. Qu'est-ce que vous voulez montrer à vos visiteurs ? Quel sens vous imaginez pour ces visites ?
Le sens des visites est axé principalement sur la pédagogie. Alors, l'ouverture que l'on fait là, on sera encore en chantier, mais on fait des visites guidées par groupe de 10, parce qu'on peut pas faire plus. On fait des visites guidées du chantier et des animaux, bien évidemment, avec des bénévoles qui nous aident à faire ces visites. Le but, il est pédagogique. On veut pas que les gamins repartent de chez nous le soir en disant j'ai vu un lion, j'ai vu un tigre, j'ai vu un singe. Non, j'ai vu Zouina, j'ai vu Canel, j'ai vu un tel. Voilà son histoire. Il a vécu en laboratoire. Voilà ce qu'il a fait. Nous, on donnera les informations.
Vous allez leur raconter ces histoires. Vous allez leur raconter ces histoires, ces
chacune.
Parcours.
Ce sont des belles histoires. Ce sont des belles histoires. Les animaux méritent qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et il ne faut pas systématiquement stigmatiser la douleur, etc. Il faut donner, encore une fois, de la bienveillance aux animaux.
Vous avez expliqué...
C'est ce qu'on a écrit.
Oui, Patrick Violas.
C'est ce qu'on a écrit là dans notre livre.
Un livre qui sort ces jours-ci, effectivement.
Voilà, le livre qui sort ces jours-ci, il s'appelle Une famille formidable, où on raconte l'histoire de 11 animaux, et c'est drôle, c'est émouvant, on pleure sur Micha, on rit sur les autres. La tanière, c'est pas triste, c'est pas un mouroir, c'est un endroit où c'est le premier jour du reste de la vie de chacun des animaux qui arrivent.
Et vous l'avez expliqué, pour que cette vie, elle soit belle, pour que ces animaux soient sauvés, il faut prendre soin d'eux. Vous avez des animaux aussi divers, vous l'avez dit, que des otaries, des singes, des vaches, des ours. Il faut du personnel spécialisé pour faire fonctionner tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à financer un projet d'une telle ampleur jusqu'ici?
Eh ben, on avait pris l'engagement, mon épouse et moi, grâce au fait d'avoir réussi à notre première vie professionnelle, de financer tout cet investissement. L'investissement de départ, là, il est de 28 millions d'euros. On a mis notre argent à nous dedans. Après, on compte aussi sur les visites, qui sont payantes, bien évidemment, pour faire tourner le parc. Et puis, on compte aussi beaucoup sur les dons. Les gens nous aident, nous font des dons sur notre site, la Tanière Zoo Refuge. On a un certain nombre de legs, des testaments qui sont inscrits déjà dans le dur. On veut que la tanière soit quelque chose de solide. C'est pas un refuge de briques et de broc pour accueillir des éléphants. On est obligé d'avoir des vraies installations. On a des éléphants chez nous aujourd'hui.
Disons que mon mari et moi avons fait tous les projets d'investissement colossaux du parc en tant que parc, de l'hôpital aussi. Et maintenant, c'est la générosité du public et les entrées qui permettront que tous ces animaux continuent à vivre, à manger, à être soignés, etc.
Parce que vous avez déjà investi, donc vous le disiez, 28 millions d'euros. Je rappelle que dans votre première vie, vous aviez bien réussi dans le secteur des nouvelles technologies. J'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous percevez les annonces la semaine dernière de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui promet justement la fin progressive de la présence d'animaux sauvages dans les cirques itinérants? C'est des animaux que vous voyez parfois arriver chez vous. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut arrêter ça?
Alors, déjà, je voulais remercier Madame la Ministre. C'est la première à avoir osé poser le dossier sur la table. Voilà, donc ça, les choses sont posées maintenant. Ensuite, il ne faut pas stigmatiser les gens du cirque. Les gens du cirque aiment leurs animaux et ne leur font pas de mal. Ce qui est compliqué dans le cirque, ce n'est pas les gens du cirque, c'est de se voir se déplacer sans arrêt et puis d'avoir des installations qui ne sont pas le mieux pour le bien-être des animaux. Mais les gens du cirque ne font pas de mal à leurs animaux. Simplement, ce qui ne va pas, c'est les installations. Donc, nous, depuis déjà un certain temps, on recueille des animaux de cirque, des gens qui veulent bien nous les amener. Et puis, on travaille déjà depuis plusieurs mois avant ces annonces, hein, et on est à disposition du ministère pour avancer avec eux. On travaille avec des circassiens, même si je n'aime pas ce mot, sur d'autres possibilités, c'est-à-dire de s'installer en fixe. Un certain nombre d'entre eux aujourd'hui sont en train de réfléchir, même en se regroupant, pour créer des établissements sites fixes où les animaux auraient les espaces nécessaires pour être visités du public. Ça leur permettrait de conserver leurs animaux, au public de voir ces animaux, parce qu'il est important aussi que les gens voient ces animaux. Et puis, par contre, il faut aujourd'hui, à partir de maintenant, contrôler la reproduction. Il ne faut plus laisser la reproduction se faire dans tous les sens. Les animaux,
et puis, des conditions de vie plus stables, si je vous écoute. Vous serez donc ouvert au public à partir de samedi prochain pour 2 semaines pour la Toussaint. Ouverture ensuite plus pérenne, si tout va bien, d'ici la fin de l'année. Rapidement, on peut donner le tarif d'entrée pour une famille qui viendrait, des adultes, des enfants.
Tout à fait, les entrées, c'est les adultes à 16 euros, les enfants à 11 euros, et gratuit pour les petits bouts de chou. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque euro que les gens vont dépenser chez nous, c'est pas comme quand ils vont dans un parc normal, c'est pour la cause animale. Chaque euro qu'ils vont dépenser à la boutique chez nous en achetant un souvenir, c'est pour la cause animale. On a, mon épouse et moi, aucun but lucratif.
Et les auditeurs, les visiteurs pourront le voir, puisque vous leur montrerez vos installations, vous leur raconterez les histoires, vous leur expliquerez comment ces animaux sont récupérés et sauvés. Merci à vous, Patrick et Francine Violas. On vous retrouve donc au zoo refuge de La Tanière à Nogent-le-Faye. C'est juste à côté de Chartres. Ouverture pour les vacances de la Toussaint. Merci pour cette belle initiative et pour être venu nous en parler dans Planète Sauvage. Je redonne le titre de votre livre qui sort aussi en ce moment et qui retrace l'aventure. Une famille pas comme les autres, c'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Europe Soir Weekend. Théo Manval. Une chanson dans la tête.
Place à la musique. À présent, c'est une chanson dans la tête. Les petits secrets, les grandes histoires derrière le parcours de nos stars préférées. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Théo et bonsoir à tous.
À l'occasion de la sortie du nouveau livre de Lynn Renaud, En toute confidence, qui vient de paraître aux éditions de Noël, vous nous parlez aujourd'hui, Fabien, du destin exceptionnel de cette grande dame qui a été chanteuse, meneuse de revue et actrice.
Un joli sourire de France, des fossettes aux joues, des cheveux tout fous, des yeux bleus très doux. Sur son...
Alors un destin, Théo, qui a commencé en 1928 dans le nord de la France, passionné de chansons depuis son plus jeune âge. La petite Jacqueline Hanté, son vrai nom donc, chante dans le café que tient sa grand-mère à Armentières. Alors la petite adore reprendre les chansons à la mode de l'époque, dont certaines sont composées par un certain Loulou Gasté, célèbre guitariste, très en vogue depuis son fameux titre avec son ukulélé. Et puis plus tard, on peut dire que Jacqueline s'inscrit en cachette à une audition, sans savoir qu'il s'agit en fait d'une recherche de chanteur classique. Et à l'issue de ce casting, le directeur de Radio Lille se présente à la jeune fille et lui propose de chanter sur son antenne. Et puis Théo, en 1945, après la guerre, Jacqueline décide de passer la vitesse supérieure. Elle quitte sa région et s'installe à Paris, où elle décroche un engagement au célèbre cabaret Les Folies Belleville. La vedette du spectacle est alors une certaine Josette Daïdé, vous allez comprendre, qui est touchée par la fraîcheur de la jeune Jacqueline d'Armentières. Et Josette, qui est l'une des interprètes de Loulou Gasté, va permettre à la jeune Jacqueline de rencontrer son idole, donc Loulou.
Et elle va faire l'impresario.
Eh bien, exactement. Nous sommes en septembre 45 et la jeune chanteuse de 17 ans rencontre le célèbre compositeur de 37 ans. Loulou Gasté décèle une graine de star chez Jacqueline et décide de l'aider à faire exploser son talent. Loulou Gasté relook totalement la jeune chanteuse provinciale. Il lui trouve un nouveau nom. Et de scène surtout, Lynn Renaud, il lui fait prendre des cours de danse, des cours de chant, il lui fait faire un régime, bref, il change tout pour qu'elle devienne la grande vedette qu'elle est devenue finalement.
Il lui
finalement.
Donne tous les atouts et grâce à Loulou, Lynn va donc devenir une chanteuse à succès.
Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler.
En 1949, Lynn Renaud connaît l'un de ses plus grands tubes avec Ma cabane au Canada.
Oui,
c'est
éternel.
En retrouvant, bien sûr, ce poème de Mireille Brosset en faisant le ménage dans le désordre du bureau de Loulou Gasté que Lynn craque pour ce texte. Elle demande ensuite à Loulou de le mettre en musique, ce qu'il fait en une demi-heure. La chanson devient en quelques semaines l'un des plus gros succès du moment. On n'entend plus que cette chanson à la radio sur Europe 1. Et dans la rue, les gens fredonnent ce titre et Pathé Marconi n'arrive plus à presser les disques tant ils se vendent à l'époque. Au total, 800 000 exemplaires Théo se sont vendus en moins de 6 mois. Et le 17 mai 1949, Lynn Renaud reçoit le grand prix du disque décerné par l'Académie Charles Cros au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, en présence de Maurice Chevalier, Henri Salvador et de Bourvil.
Incroyable succès avant même les années 50. Et puis ensuite, il y a eu d'autres chansons qui ont contribué à la notoriété de Lynn Renaud, notamment celle-ci.
Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc.
Alors une chanson de 1952 qui plaît beaucoup. Et savez-vous, Théo, qui faisait les aboiements de chiens dans la chanson?
Non, dites-moi.
Eh bien, le célèbre comédien Roger Carrel, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, le 11 septembre dernier.
Et d'ailleurs. Oui, incroyable comédien, incroyable star du doublage.
Et bruiteur.
Et oui, le succès de Lynn rendait folle de jalousie, nous dites-vous, Edith Piaf, qui l'a regardé d'un mauvais œil.
Exactement, Théo. En 1954, Lynn Renaud triomphe au Moulin Rouge et provoque la jalousie d'Edith Piaf, qui va même essayer de la faire virer de la maison de disques où elles sont en contrat toutes les deux.
Sans pitié.
Pourtant, elle n'était pas du tout dans le même créneau. Même Piaf n'aimait pas voir arriver des chanteuses plus jeunes et plus belles qu'elle. Elle monte carrément une véritable cabale contre Lynn Renaud, si bien que Lynn, se sentant menacée, décide de tenter l'aventure américaine. Et grâce à l'acteur, chanteur et humoriste américain Bob Hope, elle chante à New York, puis à Los Angeles, où elle enregistre même deux duos avec Dean Martin. Elle est la première artiste française, il faut le signaler, à apparaître dans un show télévisé en couleur à la télévision américaine.
Et cette carrière internationale va l'amener à devenir ensuite meneuse de revue aux États-Unis.
Eh oui, Théo, en 1959, Henri Varnas l'engage comme meneuse de revue au Casino de Paris avec le spectacle Plaisir de Paris. Elle va rester à l'affiche pendant 4 ans. Et c'est durant cette période, d'ailleurs en 1960, qu'Elvis Presley, de passage à Paris pour rejoindre l'Allemagne où il effectue son service militaire, vient voir, on va dire, le groupe vocal Golden Gate Quartet, qui partage l'affiche avec Lynn Renaud. Elvis restera une partie de la nuit dans la loge de Lynn Renaud au Casino de Paris et du Golden Gate Quartet à improviser un concert et à jouer sur la guitare de Loulou Gasté. C'est là que les directeurs artistiques du Casino de Las Vegas la repèrent et l'engage. Le spectacle spécialement conçu pour elle était prévu pour 6 mois réellement et durera finalement 2 ans entre 1963 et 1965.
Elle s'appelait Lola, elle était showgirl, avec ses plumes et son chapeau, sa robe fendue de bas en haut. Elle chantait, dansait, tcha-tcha le meringue. Elle voulait devenir une star, et Tony tenait le bar sur la piste bondée. Lola se déchaînait, ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils étaient heureux. La Hocopa, Copacabana.
Ah, ces succès dansants sur tous les styles, un succès de Lynn Renault. Et c'est impossible d'évoquer Lynn, Fabien Lecoeuvre, sans parler de son engagement humanitaire aussi, et notamment, on le sait tous, contre la lutte contre le sida.
Eh bien oui, Théo, en 1985, Lynn Renault crée l'association des artistes contre le sida. À cette époque, elle a vécu à Los Angeles et a assisté à l'hécatombe de la maladie à Hollywood, bien sûr. Témoin de l'action d'Elizabeth Taylor, Lynn a décidé de faire la même chose en France pour lever des fonds. Alors, après la mort de l'acteur Hawkinson, c'était le 8 octobre 1985, Lynn participe à une émission sur France 2 et annonce son projet. Elle organise ensuite, avec le soutien de beaucoup d'artistes, un gala au Paradis Latin. Et à cette période, Théo, Lynn doit faire preuve de beaucoup de courage car elle devient la cible des homophobes qui pensaient alors, et nous sommes en 1985, il faut le rappeler, que le sida n'était qu'une maladie d'homosexuels. Alors, des réactions qui paraissent totalement insensées aujourd'hui. Et en 1994, l'association des artistes contre le sida et d'autres unissent leurs forces et créent ensemble contre le sida et SIDAction. Et puis merci, il faut rappeler peut-être Pascal Obispo, oui, d'avoir mobilisé en 1998 40 artistes pour sa raison d'être.
Oui, oui, mais c'est sa raison d'être.
Et en 2010, Fabien Lecoeuvre, après donc 30 ans d'absence, Lynn Renault a fini par revenir à la chanson.
Et oui Théo, après 30 ans d'absence discographique, le 5 novembre 2010, Lynn sort un 15e album studio rue Washington, réalisé en tout cas par Dominique Blanc-Francard. Sur ce disque, il y a 15 titres, dont deux duos, l'un avec Johnny Hallyday et un autre avec Mylène Farmer. Et dans son livre, En toute confidence, qui vient de sortir, Lynn revient d'ailleurs sur la création de ce disque avec tous les auteurs qui ont accepté de partager cette aventure avec elle. Le disque est enregistré rue Washington à Paris, une rue qui a une importance toute particulière pour Lynn Renault, puisque c'est dans cette rue de Paris, au numéro 14, qu'elle avait rencontré pour la première fois Loulou Gasté aux éditions Micro.
Lynn Renault en duo ici avec Mylène Farmer en novembre 2010. Merci Fabien Lecoeuvre d'avoir évoqué aujourd'hui pour nous la grande Lynn Renault, dont je rappelle la sortie du livre En toute confidence, écrit en collaboration avec Bernard Stora. C'était aux éditions De Noël. Et puis à venir, Fabien, aussi, ce sera le 20 novembre prochain, un best-of 3 CD de Lynn Renault qui regroupera 60 chansons. On retrouve toutes vos histoires, vos anecdotes, Fabien, sur le podcast Europe 1.
Mais c'est toujours un plaisir.
Et bye bye Fabien Lecoeuvre, on vous retrouve la semaine prochaine. On parlera cette fois-ci de Renault et de sa putain d'expo à la Cité de la Musique du 16 octobre au 2 mai 2021. Merci Fabien.
Europe 1, Théo Manval.
Jusqu'à 20h, je vous laisse avec Mathieu Béliard et ses éclaireurs. Nouveau rendez-vous en podcast sur Europe 1. Son invité ce soir, le philosophe Éric Sadin. C'est juste après une dernière pause.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
19h54, il est avec nous chaque dimanche soir pour clore ce 18-20 avant de vous réveiller dès 7h demain matin. Mathieu Béliard et son nouveau rendez-vous en longueur, le podcast Les Éclaireurs, pour écouter sur le temps long les personnalités qui feront le monde de demain. Avec Mathieu pour ce 5e épisode, le philosophe Éric Sadin qui réfléchit à l'influence des nouvelles technologies sur nos comportements. Elles sont en train de faire de nous, dit-il, des individus tyrans. Jusqu'à 20h, extrait de cet entretien au long cours.
Surtout, on le sent bien, une période si particulière, faite de crispation, de brutalisation des rapports, d'extension d'antagonisme de plus en plus irréconciliable. Pour ma part, je remonte cet être au monde, cet ethos, du début du tournant des années 2010, où il s'est passé quelque chose dans la société. une sorte de, ce que je nomme une sorte de sentiment de, d'isolement collectif, on pourrait dire, et qui faisait écho à des événements du monde. Je pense à partir de 2015, les attentats que nous avons connus en France en 2015, mais aussi qui ont eu lieu dans d'autres pays. Je pense évidemment au Brexit en 2016 et à l'élection de Donald Trump. Il y avait quelque chose comme un air du temps qui s'est modifié et dont on ne savait pas de quoi il était fait, sinon qu'il signalait une méfiance ou une désillusion à l'égard d'un ordre en place depuis si longtemps. Ce que j'ai découvert, c'est que il y a une mémoire collective. Il y a l'amoncellement de rancœurs, l'amoncellement des désillusions, et ça fonctionne décennie après décennie, mais aussi génération après génération. Et pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, et plus encore en France depuis les Gilets jaunes, nous vivons le moment d'une extrême saturation et d'une désillusion, j'ai envie de dire quasi définitive, peut-être ne l'est-elle pas, mais actuellement elle me paraît quasi définitive, à l'égard de toute parole et de tout, ce qui est beaucoup plus grave, à l'égard de toute promesse politique.
On parle de l'individu. Moi, je m'intéresse à moi, je suis égocentré. Très bien, mais j'ai non seulement cet égocentrisme, mais ce sentiment de toute puissance. Nous, selon vous, souffrons d'une épidémie qui n'est pas celle du Covid, qui est une épidémie de narcissisme généralisé.
Alors, pour ma part, je ne pense pas que ça soit tant le fait du narcissisme. Ces technologies numériques personnelles nous donnent l'occasion, je devrais dire l'illusion, de pouvoir penser des plaies, penser avec un A. Vous vous rendez compte, quand vous vivez une humiliation au travail ou quand vous vivez un rapport douloureux avec une personne et qu'après vous allez balancer sur les réseaux sociaux votre expérience malheureuse, qu'est-ce que ça produit ? C'est pas du narcissisme, cela. Ça produit l'illusion d'une décharge cathartique, c'est-à-dire de se faire du bien. Au moment même où nous avons vécu des épreuves de plus en plus douloureuses, l'industrie du numérique a eu l'immense génie de créer des machines, des systèmes, des dispositifs, avec en plus des effets d'interface de plus en plus souples. Je pense au rapport tactile, et puis maintenant avec la voix, nous donnant le sentiment, l'illusion de pouvoir nous ressaisir de la vie, nous ressaisir de notre existence. C'est-à-dire, c'est même pas de la recherche de la célébrité, c'est le fait, au moment même où il y a une fatigue du salariat, où les personnes veulent vivre un peu une vie artiste, vivre des effets d'autonomie, des dispositifs ont permis d'offrir, en disant à chacun, construisez-vous des comportements, non pas qui vont tendre vers votre bonheur ou votre épanouissement, mais qui vont créer des effets d'influence sur les autres, qui vont créer du choc, qui vont créer de la singularité, en vue de dégénérer du chiffre d'audience. Et cela va pouvoir être l'occasion d'une cash machine individuelle, créer du chiffre par la visibilité que vous créez et les rapports que vous allez entretenir avec les marques. L'idée, par exemple, avec Instagram, c'est d'exercer un pouvoir sur les autres. C'est d'exercer un ascendant sous des allures de colonies de vacances continuelles, d'apparence cool et lumineuse. On met ses photos de soi au bord des piscines, des couchers de soleil, on boit des cocktails en montrant bien qu'il s'agit de telle marque ou de telle marque. Mais l'idée, c'est de produire quand même un ascendant sur les autres. On est tellement loin de la possibilité du projet politique, social, j'ai presque envie de dire humaniste, de créer des effets de solidarité, de construire ensemble des modes d'existence vertueux au profit de la volonté de construire et de tendre vers l'affirmation continue de soi.
Le philosophe Éric Sadin, notre éclaireur du soir, avec Mathieu Béliard sur Europe 1, entretien à retrouver en intégralité une vingtaine de minutes dans le podcast Les Éclaireurs, disponible sur toutes vos applis de podcast. Mathieu Béliard, qui sera de retour dès demain 7h pour votre matinale sur Europe 1, et Wendy Bouchard, on l'espère, le week-end prochain. Merci à Rémi Duprat à la réalisation de cette émission, Naïma Benchemann et Valérie Danan pour la programmation. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Europe 1 Sport dans un instant, juste après un point sur l'info.